Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Elsa. C'est après un parcours en STAPS qu'elle se réoriente vers des études d'infirmière. Et quelques années plus tard, une mystérieuse offre d'emploi l'interpelle et c'est ainsi qu'elle découvre le métier d'infirmière en recherche clinique. Bonne écoute! Bonjour Elsa!
Bonjour!
Comment tu vas?
Ben ça va super, et toi?
Ben ça va très bien, je te remercie. Je suis très contente de te recevoir au micro de Compresse et Sparadra ce matin.
Plaisir partagé. Donc...
Moi j'ai la chance de te voir et je vois que tu es en blouse et je vois que tu es au travail. Donc merci de m'accorder ce petit moment. Mais ça va pas être si court que ça parce que je crois que tu as plein de trucs à nous raconter. Donc
ouais.
Ça va être génial. Donc Elsa, tu es la première infirmière en recherche clinique que je reçois à mon micro. Donc tu vas pouvoir nous présenter ton parcours, comment tu en es arrivée à cette nouvelle carrière. Et pour commencer, je te laisse te présenter.
Alors, je m'appelle Elsa, j'ai 26 ans et je suis infirmière en recherche clinique. J'ai un parcours un peu particulier parce que je n'ai pas attaqué par les études infirmières en premier choix.
Donc, c'est vrai, alors raconte-nous tout ça.
Maintenant. Alors du coup, à la sortie du bac, moi je suis partie en STAPS. Donc, okay. C'est tout ce qui est en rapport avec le sport, en fait. Donc, je suis partie en licence. Et à la deuxième année, de licence, tu choisis un peu ton orientation. Donc, tu as le choix entre sport santé, pour être prof de sport, etc. Donc, moi, je suis partie sur sport santé. J'ai fait ma licence et derrière, j'ai engagé sur un master. Et dans ce master, j'avais de la recherche, en fait. Et je m'embêtais un petit peu dans ce que je faisais parce que les patients, je les voyais pas souvent. Je les voyais qu'une heure et demie pour faire du sport, quoi. Et je voulais aller plus loin sur les pathologies, etc. J'ai tenté le concours infirmier et ça a marché.
Du premier coup.
Du premier coup. J'étais la dernière année sur concours en plus. Et ça a marché et j'ai arrêté mon master du coup. Et j'ai basculé en école d'infirmière.
Avec une équivalence du coup des études d'infirmière, est-ce que la première année est déjà validée quand on fait STAPS ou on reprend
Alors,
tout à zéro
Non, tu reprends tout à zéro, mais par contre, je vais te dire que je me suis baladée un petit peu parce qu'en termes d'anatomie, le STAPS m'avait extrêmement poussée. On avait des cours d'anatomie qui pouvaient être faits en anglais, par exemple, sur Montpellier, etc. Et vu que j'avais choisi la filière sport-santé, on faisait beaucoup de physiopathologie. Et en fait, si tu veux, j'ai un peu tout couvert au niveau des pathos. Donc moi, je suis arrivée en première année, je voyais l'anatomie, je la connaissais déjà. Et c'était en gros la grosse partie, c'était la pharmaco, que je connaissais pas du tout. Et du coup, c'était super intéressant parce que j'arrivais à piocher dans mes cours de STAPS et à les mettre en école d'infirmière, donc c'était tout bénef, quoi.
C'est sûr. Oui, la pharmaco, alors là, pour le coup, c'est sûr que tu as dû tout reprendre depuis le début, mais en effet, c'est ce qu'on entend, en tout cas, des études de STAPS, où côté anatomie, c'est l'excellence. Enfin, il faut vraiment tout connaître dans le détail. Donc, j'imagine que du coup, la première année d'école d'infirmière, il y avait probablement beaucoup de répétitions pour toi et l'impression de parler de choses que tu maîtrisais déjà.
C'est ça, en fait. Si tu veux, en STAPS, l'anatomie, tu l'as jusqu'à la troisième année de licence, quand même.
Ah, ok.
Donc, tu fais vraiment tous les muscles, les organes, etc. Donc, j'avais une très bonne base. Donc, ça allait bien, quoi.
Et est-ce que le fait d'avoir fait de la recherche pendant ton master STAPS te donnait l'envie d'être infirmière et d'aller tout de suite vers de la recherche ou tu avais un autre projet?
Alors, infirmière de recherche, moi, j'en avais entendu parler à l'école d'infirmière, tu sais, quand ils présentent un peu tous les métiers. Mais c'est vraiment en survol, quoi. Il y avait un diapo avec écrit... pouvait être infirmière en recherche clinique. Et ça m'avait un petit peu interpellée. Je me suis dit, ça va être sympa. Puis après, j'ai abandonné l'idée parce que je ne voulais pas forcément me spécialiser après mon école d'infirmière. Ça faisait déjà 8 ans que j'étais dans les études sup, donc j'avais envie d'aller travailler. Et du coup, non. Après, je savais au fond de moi que je ne serais pas une infirmière de service. Je savais que soit je me spécialiserais quelque part, j'ai envie d'aller plus loin sur le métier d'infirmière.
Mmh.
dès le départ, c'était assez clair pour toi. Ouais. Et comment est-ce que tu as vécu les stages? Parce que du coup, je ne sais pas si en STAPS, d'ailleurs, il y a des stages, on effectue à quel endroit? Est-ce que c'était une grande première pour toi?
Alors ouais, non, en STAPS, tu as des stages, en fait, sur ta licence et sur ton master. Donc, tu peux intervenir. Alors moi, j'étais partie en SSR, tu vois, donc j'avais déjà une petite approche des infirmières.
Tu peux nous dire ce que c'est, SSR?
Alors, soins de suite et de réadaptation. Donc du coup, bah, si tu veux, moi j'étais enseignante en activité physique adaptée et donc tu bosses avec les infirmières parce que tu récupères des patients qui soit ont fait une opération cardiaque ou alors une opération du genou et tu prends la suite des kinés en fait. Les kinés, ils vont rééduquer l'articulation et toi tu vas rééduquer un petit peu tout le système autour, reprendre la course à pied, reprendre du vélo. Voilà, on bossait pas mal avec des personnes atteintes de cancer aussi, tu vois, entre les chimiothérapies. Enfin, j'avais une approche déjà des infirmières et des stages, et des stages en milieu hospitalier. Et après, au niveau infirmier, bah, je pense, comme toutes les étudiantes, j'ai eu des stages qui se sont super bien passés et des stages où ça a été une catastrophe, où je me suis dit, à la fin, enfin au milieu de mon stage presque, je ne serai pas infirmière, j'arrête.
Ah, c'est vrai. Ouais, bah, ah, des stages qui t'ont vraiment démotivée, quoi.
Ouais, ouais, bah, par exemple, mon pré-pro, bah, moi j'avais de la chance, dans mon école, on était en 5 semaines en stage. Donc c'était très court, mais au moins ça te permettait de passer sur beaucoup de services. Mmh. Donc c'était super quoi, tu pouvais vraiment balayer toutes les spécialités, sauf ton pré-pro se faisait en 10 semaines. Mmh. Et donc le pré-pro, c'est vraiment le dernier stage de la troisième année et qui, à la fin de ce stage, normalement on est censé être diplômé. Et moi, milieu de stage, j'appelle ma formatrice, je lui dis c'est fini, je veux plus être infirmière. On termine. Enfin, ouais, ça a été un stage très, très dur.
T'étais dans quel service pour le pré-pro?
J'étais en gastro, parce que je voulais une partie sur de l'oncologie, si tu veux. Mmh. Et moi, j'avais demandé à un gros hôpital, et donc un hôpital qui n'était pas de mon académie d'école. Et donc, inconnu, j'avais jamais fait de stage là-bas. Enfin, bref, c'est compliqué. Mmh. Et du coup, on me dit, bah, en gastro, il y a... sur 30 lits, je te dis une bêtise, hein, il y en a 9 qui sont tournés oncologie. Mmh. Donc moi, trop contente, je me dis, bah, au moins je fais une spé que je connais pas, la gastro, j'avais jamais fait. Et en même temps, je vais quand même voir de l'onco, donc super quoi. Et bon, ça s'avère que j'ai pas fait le bon choix quoi. Mais ça m'a énormément appris sur moi, ma posture professionnelle, et aussi de prendre du recul, tu vois, sur les personnes qui encadrent les étudiants. Mmh. Parce que moi, ça a été ma maître de stage, si tu veux, qui m'a vraiment mis à terre, quoi.
Donc, elle était dévalorisante, enfin, elle n'était pas soutenante.
Pas soutenante, elle m'appelait l'étudiante, tu vois, alors que c'est bon, ça faisait 4 semaines que j'étais là, au moins, ou tu vois, au moins me demander. Et un jour, je rentre dans une salle de soins, la salle de soins, elle était en U, donc tu avais 2 entrées. Elle était de l'autre côté, et moi je rentre de l'autre côté de la salle en fait. Et elle dit aux collègues du soir avec qui j'avais tourné, ouais, l'étudiante, faut lui faire cracher ses tripes.
Oh non, quelle horreur.
Et moi j'étais derrière ma porte, j'ai dit, bon,
ah, super.
Ça annonce la couleur.
Ah, c'est agréable.
Voilà, mais après, après je crois que j'ai laissé couler un petit peu, j'ai eu 2 phases, tu vois, dans me dire, j'arrête d'être infirmière. Et après, je me suis dit, mais Elsa, avec les études que tu as derrière toi et celles que tu viens d'engager et le projet professionnel que tu as, faut que tu ailles au bout. Et tous mes autres stages s'étaient très bien passés. Enfin, j'avais découvert des stages sur lesquels je n'avais pas envie d'aller. Et au final, je me suis dit, mais c'est génial. Donc, je me suis dit, hors de question que cette infirmière te mette à terre.
Ouais, mais donc toi, tu étais quand même sur des rails, tu avais une formation qui se déroulait bien, tu avais l'envie d'aller au bout, mais malgré ça, c'est pour dire à quel point ces personnes-là peuvent avoir un pouvoir énorme, enfin, influer sur les études, sur l'avenir de jeunes étudiants, quoi. Ça, je rebondis sur l'épisode de Charlotte, le jour où, numéro 10, voilà, on en parle.
Exactement.
Aussi, hein. Mais ces personnes-là peuvent mettre les étudiants plus bactères, même dans des contextes où, voilà, comme toi, tes études se déroulaient bien et que ton, ton parcours était quand même bien tracé, quoi. C'est affreux de se dire que c'est... Enfin, l'influence qu'elles peuvent avoir. Et du coup, à l'école, quand on a parlé à ta formatrice, t'as trouvé du soutien et elle a réussi à te remotiver malgré tout.
Ah ouais, ouais. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais dans un IFSI, si tu veux, où on était 35 élèves dans ma promo.
Ah, ok.
Donc, c'était génial. En fait, déjà, on avait nos profs qui étaient en présentiel. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup d'IFSI qu'actuellement, ça, c'est pas possible. Mm-hmm. Donc, nos profs étaient en présentiel. Et en plus de ça, sur nos terrains de stage... Je crois qu'on était maximum 3 étudiants, tu vois.
Ah, ok.
Donc,
ouais.
On avait une qualité d'enseignement qui était super bien. Nos formatrices, si tu veux, à chaque fois qu'on avait un problème, on envoyait un mail ou même des fois, ça arrivait qu'on ait leur ligne pro, tu vois. Mmh. Et on les appelait et elles te disaient, bah, passez de suite à l'IFSI, on en parle, on désamorce la chose. Et voilà. Et moi, en étant à distance, c'était compliqué, tu vois, parce que j'étais à 300 bornes de mon école.
Mmh.
Et donc, en fait, quand je l'ai appelée en pleurant, en lui disant je veux tout arrêter, on a organisé un Zoom. Enfin, voilà, elle m'a vraiment accompagnée. Et c'est elle qui, en fait, m'a remis sur les rails parce qu'elle m'a dit, regarde tes stages précédents, comment ils se sont passés, les appréciations que tu as eues, etc. Ça ne vaut pas le coup d'arrêter, quoi.
Mmh.
Et après, elle m'avait proposé l'option. Hein, elle m'avait dit, si vraiment ça ne va pas, il faut qu'on pousse jusqu'à la moitié du stage. On annulera et on te passera sur un autre stage. Mais étant donné que j'avais tous mes autres stages qui étaient validés, bon, voilà, ça allait largement passer. Mais j'ai eu de la chance sur ça parce que, tu vois, il y en a plein d'étudiants qui n'ont pas cette chance-là, quoi, d'avoir des formateurs qui sont vraiment à tes côtés et qui comprennent les problèmes de terrain.
Complètement. Et puis, ce n'est pas qu'une question de taille de promo. Enfin, là, du coup, là, d'être 35, probablement que ça aide. C'est évident sur une petite structure comme ça. Mais il y a plein de formes d'encadrement et on ne trouve pas toujours tous du soutien auprès de nos formateurs. Donc, c'est génial qu'elle ait pris le problème... au sérieux et que au-delà de te dire accroche-toi, c'est dur mais accroche-toi, qu'elle t'ait aussi trouvé une solution en te disant si tu vas à la moitié de ton stage, on peut aussi trouver une autre solution derrière, c'est chouette à entendre, quoi.
Oui, voilà, c'était ça. Et puis c'est surtout que je trouvais que dans cette IFSI, on était considérés comme collègues, futurs collègues de travail, très rapidement en troisième année. Donc, si tu veux, ça nous responsabilisait énormément.
Mmh.
Et le fait d'avoir ce dialogue favorisé avec ton encadrante, entre guillemets, bah, ça te permettait de comprendre qu'il te fallait, sur un travail d'équipe, être là, parler, désamorcer les problèmes, ne pas laisser les choses s'envenimer, etc. Et en fait, je me rends compte que ça me forme actuellement, tu vois, pour mon travail, quoi.
Mmh. Oui, j'imagine. Bon, alors, du coup, tu as réussi à aller... Bon an, mal an, à la fin de ce stage assez catastrophique, du coup.
Oui. Après, j'y suis allée jusqu'au bout. Et à la fin, on m'a même proposé un poste là-bas. Et j'aurais dit, mais je vous ferai jamais ce plaisir-là. Vous m'avez trop humiliée, entre guillemets, sur mon stage. Jamais je vous ferai ce plaisir-là.
Quelle horreur.
Et là, actuellement, on est voisins de service.
Ah oui. Tu vois, comme quoi.
Voilà.
Bon, alors du coup, après ça, le diplôme en poche, du coup, juste après le stage pré-pro.
Ouais, diplôme en poche. Donc, mon école, je l'ai faite à Gap, dans les Hautes-Alpes. Et pour des raisons familiales, en fait, il fallait que je redescende chez moi, quoi, vers chez mes parents, etc. Donc, je cherche un poste et je me dis, il faut que tu prennes un poste qui te donne beaucoup d'expérience, où tu puisses vraiment étalonner tes compétences, etc. Et tant que, si tu veux, j'ai pas de famille, d'enfants, je peux me permettre d'avoir un service qui me bouge un peu, quoi. Mmh. Donc, j'avais entendu parler des HAD, donc c'est l'hospitalisation à domicile. Donc, pour présenter un peu le service, souvent ils sont rattachés à un hôpital ou ils sont dans le privé. Et en fait, c'est vraiment, on amène l'hôpital à la maison. Donc, on va être souvent sur des fins de vie, sur des reprises de chirurgie, tu sais, avec les pansements à pression négative, etc. Donc, du coup, voilà, moi je décide de partir sur ce service-là parce que je me dis, au moins, je vais voir plein de soins. Et ça va me permettre d'acquérir de l'expérience, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Sauf que j'avais pas dans l'idée qu'en étant en domicile, t'es seule au monde, quoi.
Ah, c'est sûr, ouais.
Donc du coup, écoute, je m'envoie sur cet HAD là et je suis super bien accompagnée. Et je suis doublée la première journée et en fait, je me rends compte que tu fais une sédation à, je te dis une bêtise, à 9h. À 10h, tu fais un TPN, puis tu reviens, tu poses une aiguille de Uber, puis enfin, tu vois. Donc en fait, tu fais vraiment tout, quoi. Donc top. Et en plus de ça, tu tournes avec une équipe aide-soignante, ce que les infirmières libérales n'ont pas. Et donc, le dialogue est super important. Et puis, je me rends compte qu'en fait, quand tu es auprès de ton patient, c'est du one shot parce que tu ne le vois pas comme tu le vois en service, tu vois. Tu le vois à une heure. Et sur cette heure-là, il faut que tu sois à 100% avec ton patient. Et aussi, toi, en tant qu'infirmière, il faut que tu sois à 100% parce que tu as une relève à faire derrière et que le moindre détail compte, quoi. Donc du coup, j'adore ce type de service sur l'HAD. Après, mon responsable me propose un poste d'infirmière de suivi sur de l'HAD. Donc en fait, si tu veux, tu fais des admissions, les nouveaux dossiers qui arrivent, etc. Et après, tu vas faire des visites de suivi, du coup, au domicile, savoir D'accord. comment ça se passe avec l'équipe, savoir comment ça se passe avec l'équipe de coordination, avec le médecin traitant, le médecin spécialiste, etc.
Donc, tu te détaches un peu de l'équipe soignante pour piloter un peu voilà, le côté administratif et puis après, tous les corps de métier qui interviennent auprès des patients.
Exactement. Et okay. Par contre, je profite pour continuer à faire mes soins, pour quand même avoir, si tu veux, garder mon expérience, quoi. Donc c'est un poste hybride qui me convient vachement parce que je suis un peu spécialisée, mais en même temps je garde toute ma partie soins, et moi je trouve ça génial, quoi. En fait, je me balade un peu sur plein de domaines à la fois, etc., et j'ai un responsable d'équipe à ce moment-là qui me responsabilise beaucoup et qui me fait énormément confiance. Donc, en fait, c'est tout bénef, surtout que je sortais de ce fameux stage. Donc, une confiance en moi qui était complètement délétère, qui était très compliquée. Et lui, en fait, qui m'a vraiment portée et qui me remet sur des rails sans s'en rendre compte, en plus.
Oui, c'est ça. Et ce poste-là, voilà. Il intervient combien de temps après ton premier jour à l'HAD ?
J'y suis rapidement, j'y suis pratiquement sur 3 mois.
Ah ouais, tiens, super.
Ouais, ouais. J'y suis très très rapidement sur une équipe qui est assez jeune. J'ai des infirmiers qui ont une quarantaine d'années, 35 ans, tu vois, mais qui ont déjà 50 diplômes derrière eux.
D'accord.
Et moi, je suis la petite nouvelle, en fait, et voilà, faut que je pose un peu mes bases, mais en fait, c'est hyper bienveillant. On m'accompagne vachement bien, en fait. Et on se rend compte qu'on peut compter sur moi au niveau des responsabilités, etc. Donc,
super.
Ouais, moi, si tu veux, c'est un peu toute l'histoire de mon parcours. C'est qu'à chaque fois, j'arrive sur des postes où on me dit qu'il faut faire ses preuves. Et je les fais ou j'ai l'impression de les faire, en tout cas. Et en fait, ça se passe bien.
Et ça fonctionne.
Bon, j'ai des bas, ça fonctionne bien, mais... Et en fait, c'est en me nourrissant des autres que j'arrive à un peu progresser petit à petit, quoi.
Ah, super. Je vais bientôt recevoir, c'est Emeline, je crois, son prénom, une infirmière en HAD, justement, qui m'a proposé son profil pour le podcast. Donc, ça sera super intéressant de pousser un peu le sujet.
Carrément. Hein. Enfin, on ne va pas développer sur ça, mais c'est vraiment les infirmières d'HAD. Moi, je leur tire mon chapeau parce que tu vis des situations... que tu vis à l'hôpital, sauf qu'à l'hôpital, t'as l'infirmière du secteur d'à côté, t'as l'AS, t'as
Bien
tout
sûr.
Ce que tu veux.
T'as le filet de sécurité de la structure en général, quoi. Ouais, ouais.
Voilà, quand tu veux passer un relais, tu passes le relais. Si la situation est trop, trop dure pour toi, tu la passes. Là, non. Hein. Mmh. Quand on est d'astreinte de nuit, t'es appelé la nuit pour, des fois, malheureusement, faire une fin de vie qui est imminente, et tu la fais, quoi. Et tu rentres chez toi et tu réfléchis. J'ai vécu un truc de dingue. Ouais, et t'as personne, si tu veux, pour vraiment désamorcer la chose. Ou quand tu la désamorces, c'est avec tes collègues, mais c'est
plus tard.
Au moment de ta relève. Ouais, c'est 5 heures plus tard, quoi. Donc tu verras, c'est un métier qui est extraordinaire, vraiment.
Super. Ah bah tu vois, j'avais déjà hâte de la recevoir, mais encore plus.
Voilà.
Bon, bah super. Alors du coup, après cette... donc voilà, tu arrives dans ce poste un peu de... Alors de coordination, comment est-ce qu'on peut appeler?
Ouais, c'est ça. En fait, je suis en coordination. Et petit à petit, bah, je prends un peu des échelons. On me propose un poste de faisant fonction infirmière coordinatrice.
Ok.
Parce que en fait l'infirmière cordo s'en va et du coup on me propose d'y monter quoi et moi je sais pas, je me dis ouais ça fait une expérience en plus, ça peut être génial de toucher du doigt et puis voir si ça me va ou si ça me va pas quoi, donc j'y allais, go, on fonce. Et donc j'y vais, à ce moment là mon responsable est toujours à mes côtés, donc je sais que je suis au point, tu vois. Et j'ai une secrétaire médicale qui a 20 ans d'ancienneté, donc en fait je crains rien. C'est que si il y a des trucs qui passent à côté, je sais que la secrétaire sera là pour me rattraper, responsable aussi, donc je suis sur un bateau quoi. Je suis plutôt bien quoi. Et grosse descente de 10 étages, en fait, mon responsable vit un choc un peu émotionnel, si tu veux, se met en arrêt. Et en fait, la direction décide de ne pas le remplacer.
Ah.
Et on me dit, vous allez un peu prendre les rênes pendant 2-3 semaines, le temps qu'il revienne, quoi. Et moi, je me dis, pour mon responsable, avec tout ce qu'il a fait pour moi, je vais le faire. Et je vais lui prouver que voilà, il faut qu'il prenne du temps pour lui, que ça va rouler, etc. Et de là s'enchaînent des incidents qui me frappent un peu fort, si tu veux, parce que je pense trop jeune, trop jeune de manière générale. J'ai des arrêts, je connais rien à la RH. On me dit en gros qu'il faut que je me débrouille. En même temps, il faut que je gère les problèmes de patients. Et en fait, j'ai des gros problèmes RH. On recrute des infirmiers qui ne se présentent pas au poste. Voilà. Sauf que nous, sur l'HAD, en fait, tu as un infirmier jour. Donc, s'il n'est pas là, ou deux infirmiers. Donc, en fait, je me retrouve à partir sur terrain, faire mes tâches de terrain, rentrer, faire mes tâches de coordination.
Ah, voilà.
Et avec une direction qui me pousse un peu en me disant faut tenir. Bon, l'histoire, elle dure 2 mois à peu près. Deux mois et demi. Et en fait, il faut savoir qu'en HAD, le week-end, tu as des astreintes de coordination. Donc en fait, c'est la cellule de co qui décroche les téléphones s'il y a un problème et en fait déclenche tes infirmiers. D'accord. Ou dit à l'infirmier, voilà, il faut que tu ailles faire ça, ça et ça. Et nous, c'était 7h30, 21h30. Donc obligé d'être avec ton téléphone assez souvent, quoi. Enfin, ton téléphone professionnel. Et du coup, ouais, ça dure 2 mois. Moi, je me lève la nuit pour travailler.
Oh là là.
Parce que je suis à la bourre, tu vois. Et je me lève et en fait, je pète en plein vol, quoi. On me dit, Elsa, faut que tu te poses et que tu mettes des limites. Sauf qu'en fait, pas mal de personnes avaient compris que moi, si tu me touchais à l'affect, on te dit, c'est pour le patient, j'y vais.
Ah ouais,
et je redouble d'efforts, tu vois.
C'est très, très infirmière, ça, hein.
Comment te dire, c'est presque un comble, quoi.
Puis j'ai envie de dire, du coup, les personnes qui te mettent cette pression-là savent très bien que derrière le travail sera fait.
Ouais, elles connaissent bien le truc, quoi.
Bah oui, c'est bien connu, même dans les services en sous-effectif, on dit aux infirmiers, c'est marrant que vous ayez 8 ou 16 patients, les soins sont faits. On va y laisser la santé, hein, les soins, ils seront faits. Hein. Alors après, le relationnel, tout ça, on repassera, mais les soins seront faits, quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont très très bien compris comment fonctionnaient les tempéraments de la majorité des infirmiers. Je veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais moi je me comptais dedans aussi. Ou sur l'affect, on peut te faire tolérer, supporter à outrance des trucs pas croyables, quoi.
Puis j'avais des messages sur mon téléphone personnel, tu vois. Des infirmiers qui prennent la garde à 7h et à 6h45, je serais pas là.
Ah, super.
Et moi je vois les soins dans ma tête, je me dis mais si on décale de 2 heures, ça va pas possible. Donc habille-toi en catastrophe, go sur terrain, tu vois. Et jusqu'au jour où en fait le matin je me lève pas et je dis je vais appeler mon médecin, il faut que je parle de quelque chose. Et je vais chez lui et en fait il me voit arriver, donc j'avais perdu bien 6 kilos, tu vois. Et je mangeais comme 4, hein, donc voilà. Et il me dit, bah, qu'est-ce qui t'arrive et tout. J'ai dit, je crois que je suis en burn-out, mais je suis pas sûre. Et il me dit, comment ça, t'es pas sûre? Et j'ai dit, bah, je vois les symptômes, mais ouais, je sais pas. Et quand on parle, il me dit, non, bon, là, on arrête tout. Arrêt buffet, comme on dit, on arrête. Je faisais plus de sport alors que je suis passionnée de sport. Enfin, j'avais plus envie de rien, tu vois. Donc, arrêt buffet, il m'arrête 2 mois pratiquement. Et en fait, je reviens après sur l'HAD en disant maintenant je vais poser mes jalons. Et voilà, mon responsable est revenu aussi. Et en posant mes jalons, en fait, je me rends compte que, tu sais, quand tu prends une grosse claque, en fait, t'as pas envie d'y revenir. Ben, c'est ça. Et là, je me dis, en fait, je me suis fait vacciner toute seule, quoi. Je supporte plus. Je me sens pas à ma place dans le sens qu'en fait, je vois que j'ai des compétences qui sont pas mises en œuvre. Je vois que de toute façon, on va me represser comme un citron. Mon responsable, tu vois, est à côté. Parce que maintenant, c'est devenu un ami. Donc, il voit qu'en fait, je suis en train de me gâcher et ça le bouffe aussi. Et je lui ai dit, écoute, je démissionne et je partirai. Je vais partir, quoi. Donc, je quitte un CDI, un très bon salaire. Je sais pas trop où je vais. Et je trouve une genre d'annonce, tu sais, là, sur Indeed, là, les trucs d'emploi. Et je vois infirmière de recherche. Et je me dis, vas-y, banco, pourquoi pas. Je postule et puis je dis à mes parents, mais de toute façon, je serai jamais prise. C'est un truc sur une grosse structure, c'est sur un CHU, forcément, quoi. Et en fait, je suis prise. Oh, je suis prise, je fais... Donc en fait, un premier tri qui est fait par les RH du CHU. Et après, tu rentres en entretien. Il faut savoir que sur ton entretien, tu as l'équipe soignante, mais tu as l'équipe de recherche aussi.
Ah oui, bien sûr.
Donc l'équipe de recherche, en fait, elle va te poser des questions qui sont relatives à la recherche. Donc si tu n'entraves rien, enfin, tu ne comprends rien, ça va être compliqué. Et en même temps, tu comprends que tu ne peux pas trop compter sur ton équipe médicale parce qu'ils sont... Voilà, eux, ils ont 50-50. Si, si la recherche dit non, ça va être compliqué de faire passer.
Et qu'est-ce que le mot recherche clinique t'évoque à ce moment-là? Est-ce que tu vois quels sont les contours du poste ou tu vas à l'entretien? Alors, j'imagine que tu te renseignes avant d'y aller, mais quand tu vois l'annonce la première fois, qu'est-ce que ça t'évoque?
La première fois que je la vois, je me dis, j'espère qu'il y a du soin dedans. Parce que, voilà, il fallait que je sois avec des patients, il fallait que je parle avec eux, etc. Et en plus, moi, si tu veux, quand je postule en mode...
autant
essayer. Je vis comme ça, quoi. J'avais postulé de partout. Ouais, voilà. Puis avec la conjoncture actuelle, tu sais que bon, là où tu vas postuler, je savais que j'avais quelque chose derrière. J'avais déjà été contactée. Enfin, il n'y avait pas de souci pour ça. Donc, puis je laisse mon CV, mais vraiment à l'arrache, j'ai envie de te dire, tu vois. Et en fait, c'est les RH qui me recontactent, qui me disent, est-ce que vous n'avez pas un CV qui est un peu plus construit, quoi? Parce que... Ouais, j'ai pas allé.
Bon, d'accord.
Parce que, en fait, là, vous nous donnez un petit truc, mais pas la suite. Donc, je leur donne mon CV et, en fait, j'en parle avec mon père, qui est... Mon père est enseignant-chercheur au CNRS, donc c'est le Centre National de Recherche Scientifique. Mais lui, il est dans la nanotechnologie. Et je lui dis, est-ce que tu crois qu'il faut que je mette tout mon truc du STAPS, etc. Et il me dit, franchement, ouais, mets-le. Parce qu'il me dit, au moins, on va comprendre ton parcours et ça peut peut-être intéresser des gens, etc. Je l'avais jamais mis sur mes autres CV.
Ah, c'est quelque chose là, que tu mettais de côté, enfin que tu mentionnais pas.
Ouais, non, je mentionnais pas du tout parce que je m'étais rendu compte que dans le milieu hospitalier, l'image STAPS était pas super bien vue, tu vois.
Ah, d'accord.
Dans le sens que le STAPS, c'était genre, ouais, vous faites du sport toute la journée, le soir c'est binous, etc. Alors non, pas du tout.
Pas vraiment.
Pas du tout. On fait peu de sport au final en STAPS. Et donc je l'avais un peu occulté, quoi. Et là, je le mets, je l'envoie, et puis je me pointe au... Comment ça s'appelle? À l'entretien, tu vois. Et en fait, ils nous convoquent tous à 14h. Et on passe les uns derrière les autres.
Ah, ok.
Et je regarde le nom des filles, parce qu'elles ont leur blouse à ce moment-là. Moi, je suis la seule en civil. Je regarde le nom des filles, et je me dis, ah, bah, par ordre alphabétique, je vais passer dans les premières. En fait, pas du tout. On passe pas du tout par ordre alphabétique. Et je passe dernière. Donc, je crois que je passe presque 2h30 après, quoi.
Ah bah ouais, le temps de voir tout
donc,
le monde.
Donc, un peu... ouais, un peu les nerfs, j'ai envie de te dire, parce que moi, j'ai posé une après-midi au travail.
Eh oui.
Du coup, parce que je suis encore en poste, tu vois. Et voilà, donc je me dis dans ma tête, tu vas avoir plein de travail à rattraper. Et j'y vais et en fait, on me pose peu de questions sur mon rôle infirmier, parce qu'à partir du moment où je dis que je viens d'HAD, en fait, j'ai le cadre qui dit « Ah ben alors, ça veut dire qu'elle sait tout faire. »
Ok.
Qu'elle connaît les situations d'urgence, que on peut la mettre sur n'importe quel soin. En théorie, elle devrait être bien, quoi. Donc en fait, il passe super vite sur ça et à ce moment-là, moi, j'ai une montre et je vois et en fait, je me dis, ça fait que 10 minutes que je suis là et on occulte déjà le côté infirmier, quoi. Et je me dis, comment on va faire pour la suite? Qu'est-ce que je vais raconter, quoi? Et en fait, il me balance sur mon parcours STAPS. Et là, là commence à tomber des questions sur la recherche, etc. Sauf que moi, si tu veux, de ce que j'ai touché en STAPS, c'est de la recherche scientifique et pas de la recherche clinique. Donc, c'est deux axes différents. La recherche scientifique, tu vois, on va plus être sur, par exemple, des capteurs au niveau des muscles, etc. La recherche clinique, on est vraiment sur quelque chose, sur l'incidence des traitements, sur des nouveaux protocoles. Enfin, tu vois, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus pointu, quoi. Enfin, beaucoup plus pointu, je vais pas te dire ça, mais on est vraiment plus tourné sur de la santé, quoi.
C'est ça, ouais, ouais.
Voilà. Et en fait, il y a une chef de projet pendant l'entretien qui me cherche un peu sur mes études, en fait, et qui me fait comprendre que le STAPS, c'est désuet, quoi, un petit peu, tu vois, que ça n'a pas trop d'incidence, pourquoi je viens là, mais presque elle me dit, mais pourquoi t'as postulé, quoi, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, je m'énerve et je dis, bon, écoutez, là, maintenant, ça suffit. En fait, tout le côté recherche, je baigne dedans depuis que je suis petite, en fait. Et là, ça... Et je dis, voilà, mon père, il a ça, à tel niveau, machin et tout. Ah oui, donc vous connaissez. Ben oui, j'ai dit un petit peu. Ah oui, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça, etc. Et en fait, j'approche par le sport, en disant qu'il y a d'énormes progrès sur le sport actuellement, quand on se tourne vers le Canada, etc. Et que l'un ne va pas sans l'autre, sans la santé, quoi. Le sport va pas sans la santé va pas sans le sport. Et en fait, ils comprennent que, si tu veux, je veux pas être uniquement une infirmière qui va faire les tâches qu'on lui demande sur le protocole. C'est-à-dire que moi, je veux lire, je veux comprendre.
Aller plus loin.
Voilà, je veux vraiment aller plus loin, je veux accompagner mon patient, voilà, parce que le patient, des fois, il te pose des questions sur le protocole et tu sais pas répondre, mais à côté de ça, tu lui passes le produit. Il va te dire, mais enfin... Vous me passez un produit, vous connaissez rien, quoi, ça craint, tu vois. Donc, je leur explique tout ça. Mon entretien, il dure 45 minutes.
Oh,
j'en vois pas la fin, quoi. Je suis à bout, tu vois, j'ai l'impression d'avoir tout donné, etc. Je sors de l'entretien, j'appelle mes parents, je leur dis non, mais c'est mort. C'est mort. Mon père, il me dit ah ouais et tout. Je dis ah bah attends, il y avait des filles avant moi, c'était des bêtes, quoi, c'était des monstres, 10 ans de diplôme, moi j'arrive, j'ai 2 ans et demi de diplôme, tu vois. Et du coup, il me dit, ah bah écoute, c'est pas grave, hein. Au moins t'auras tenté, t'auras vu. Et tu vois, ouais. Et puis l'idée me passe vraiment derrière la tête. Et je suis contactée pour d'autres postes sur des structures avec qui j'avais travaillé en HAD et qui en fait me dit, c'est bon, nous on te prend pour plus de salaire, etc. Donc, je suis à deux doigts de dire oui. Pas de travail les week-ends, enfin, voilà. Et en fait, ils me rappellent et ils me disent, bah, c'est bon, vous êtes prise.
Oh.
Et moi, je dis, mais je suis prise où?
Comment ça? Qui êtes-vous?
Ils me disent, vous êtes prise sur le poste d'infirmière de recherche. Je dis, mais pour de vrai? Ah oui, oui, on vous attend. Vous venez signer votre contrat quand vous voulez. Vous voulez attaquer quand? Machin et tout. Bah, je dis, je vous rappelle.
Donnez-moi 2 minutes, je réfléchis, je vous rappelle.
Et mon responsable est à côté à ce moment-là, mon responsable d'HAD, il me dit, mais vas-y, c'est le feu, fonce, quoi.
Ouais, il te soutient. Hein. Ouais, ouais.
Ah ouais, 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 bah lui, oui, à 300%. Ouais. Et je vais signer, je suis à des années-lumière, quoi. Parce qu'en fait, là, on m'explique que je vais avoir donc 2 directions, 2 cadres, parce que je dépends autant de l'hôpital que de la direction de recherche.
Ah oui, d'accord. Ouais, c'est donc, un poste transverse, en fait.
Ah ouais, moi, je suis en plein milieu. Hein. Je suis comme, tu vois, la tomate sur un sandwich. Moi, j'ai au milieu et il faut que je fasse le taf de partout. Donc, je signe mon contrat et premier jour, ben, je suis accueillie par le chef de pôle, le cadre de service. Non, moi, je suis spécialisée en neurologie, du coup. Et là commence la présentation de tout le monde avec l'équipe soignante et l'équipe de recherche. Et je fais une première intégration où je suis 2 semaines dans le service de neuro pour m'imprégner des soins, tu vois, et m'imprégner de l'équipe parce que je vais, en fait, tu vas voir quand on va parler un peu du poste, en fait, je suis dans l'équipe sans l'être. Donc, faut pas que j'embête l'équipe durant leurs soins courants. Mais en même temps, il y a des trucs dont j'ai besoin. Mmh. Donc, il faut qu'on ait une bonne relation entre nous. Donc, voilà, je fais un peu... Je fais 2-3 semaines d'immersion, entre guillemets. Je prends possession de mon bureau. On m'envoie des mails, je les lis. Je suis là, putain, mais c'est quoi ça? C'est en anglais. Donc, voilà. Et après, je bascule avec l'équipe de recherche. Et donc là, je comprends les strates, tu vois, dans lesquelles je vais être. Et je comprends qu'en fait, je suis un peu à tous les niveaux. Donc, je vais être avec les neurologues, avec les assistants de recherche clinique, en fait, qui, elles, c'est des personnes qui ont un bac plus 5 en recherche clinique, tu vois.
D'accord.
Et qui s'occupent de toute la coordination du protocole. Je suis en relation avec les ingénieurs de recherche clinique, donc ils sont... ils sont sur le même piédestal entre guillemets, mais ils ont des tâches qui sont différentes, qui fait que, si tu veux, il y a plus de responsabilités, en tout cas.
D'accord.
Voilà. Et donc voilà, je comprends un petit peu tout ça, et puis en fait je suis très jeune. La fille qui était sur mon poste précédemment, je crois qu'elle avait une quarantaine d'années, moi j'arrive, j'ai 26 ans, enfin je suis tout le temps en train de rigoler, tu vois, c'est un... À mon avis, dans leur tête, ils sont de se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est réellement sérieux, quoi? Et voilà, et j'attaque mon poste comme ça, et c'est dingue. Parce qu'en fait, je pensais pas que c'était comme ça. Je m'attendais pas à ça, si tu veux. Et en fait, je me rends compte que sur le CHU, on est énormément. Parce qu'au bout d'un moment, on me fait faire, ils appellent ça un vie-ma-vie, avec une autre infirmière de recherche qui est en réa. Et en fait, elle m'explique qu'elle ne fait pas de soins. Qu'elle fait comme les assistants de recherche clinique, les ARC. Et moi, je remonte, je vais voir de suite la direction. Je dis, mais par contre, je ne veux pas du tout faire ça. Ah ouais, ouais. Moi, c'est hors de question et tout. Ah bon? Ah non. Moi, il me faut du soin. C'est-à-dire que mon patient, quand je le vois, il faut que je le vois de A à Z. Mmh. C'est que si je dois le perfuser, c'est moi. Enfin, je fais tout, quoi. Tout. La bandelette urinaire, je la fais. Et donc, en fait, eux, ils sont trop contents. Enfin, ils sont trop contents. Ils disent, c'est cool, parce qu'en fait, dans n'importe quel service qu'elle va aller, je ne vais pas rajouter du travail au service, puisque c'est moi qui vais l'endosser. Mmh. Donc, voilà. Après, c'est dans la limite de mes compétences. Voilà, s'il y a des choses que je ne sais pas faire, bien entendu, jamais de la vie, je me lance sur un soin que je ne connais pas.
Bien sûr. Ouais. Mais du coup, ça prouve bien qu'en fait, le poste, on l'invente, on l'imagine comme on a envie de l'imaginer. Si tu veux rester complètement en observation et en théorie sans jamais mettre les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, c'est possible. Et toi, tu t'exprimes ce besoin-là et finalement, la direction reçoit plutôt bien cette demande.
Ouais, c'est ça. En fait, il le reçoit plutôt bien. Et puis, je me rends compte que sur l'équipe soignante aussi. Parce que je pense que précédemment, ça ne s'était pas super bien passé. Bon, après, ça, je pense que ça vient du STAPS, mais le fait d'être pas dans un milieu féminin. Les histoires passent complètement au-dessus, quoi. Donc, je voulais pas entendre ce qui s'était passé avant. Et moi, j'arrivais, on repartait de zéro, quoi. Donc, mais de ce que je comprends, en tout cas, voilà, c'était un peu galère sur ça. Et en fait, au début, si tu veux, ce qui se passe, c'est que moi, je suis en horaire fixe. Donc, je fais 8h, 15h30. Et sauf que moi, mes neurologues, enfin non, les neurologues avec qui je travaille, consultent le matin de 8h jusqu'au soir 18h30, quoi. Et si tu veux, en neurologie, bah, les patients qui sont atteints de SEP, par exemple, donc la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est neurodégénérative et donc elle est de plus en plus sur des patients jeunes. Et donc, c'est des patients qui sont actifs, qui ont une vie professionnelle. Et à 15h30, bah, ils sont pratiquement tous au travail. Donc, je dis à ma direction, moi, j'ai un problème, en fait. Je vois que la moitié des patients. Et ça me perturbe. Donc, je vois que la moitié des patients. Du coup, ceux qui viennent après 15h30, bah, c'est le service qui doit les récupérer.
Ouais.
Donc, charge de travail supplémentaire, voilà. En plus, des infirmiers qui ne sont pas spécialisés sur les protocoles. Donc, forcément, on prend des erreurs derrière, mais ils y sont pour rien, parce qu'ils font comme ils peuvent,
bien sûr.
Et voilà, les patients posent des questions, ils ne peuvent pas leur répondre. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, ma direction me dit, bah, si vous êtes d'accord, on vous passe en forfait jour, ils appellent ça. Donc, en fait, j'ai tant d'heures à faire à la semaine. Et je l'organise comme j'ai envie.
Ah, super.
Donc super bien. Donc, forcément, je me tape des journées qui sont assez costauds. Puis après, je vais avoir des journées qui sont plus calmes. Donc, c'est génial. En fait, je me rends compte que je peux suivre mes patients de A à Z. Je peux faire toutes les réunions. Donc, voilà. Et du coup, le service, parce que j'interviens autant en HDJ. Enfin, là, pour le moment, je suis en hôpital de jour majoritairement. Mais tu vois, là, on va rentrer deux études et je vais être en service de neurologie, hospitalisation complète et sur de l'UZINV. Donc, c'est l'unité de soins intensifs en neurologie. Donc, voilà. Donc là, les filles qui sont en service, qui ont 15 patients, qui ont la tête sous l'eau, tu leur dis, au fait, il faut que tu me rajoutes tant de tubes pour le protocole, machin et tout. Elles vont péter un plomb, enfin, ce qui s'entend tout à fait.
Oui, alors du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets voilà, de choses que tu mets en place qu'est-ce que tu observes, voilà, comment ça se passe?
Alors, bah, du coup, j'ai plusieurs interventions. Si tu veux, nous, on reçoit des protocoles. Donc, les protocoles, c'est les études, en fait, on appelle ça des protocoles. Donc, il peut être impulsé. Soit par un CHU, donc ça c'est, on appelle ça tout ce qui est institutionnel, etc. Soit sinon c'est par des laboratoires, donc c'est industriel. Je te donne des exemples, Sanofi, Bayer, tu vois, des choses comme ça. Ensuite, donc l'étude est envoyée au centre de recherche, donc par exemple chez nous. Et là, le médecin, donc l'investigateur, doit dire si oui ou non il est capable de fournir des patients. Et de fournir des ressources humaines suffisantes. En ressources humaines, ça passe par les ingénieurs. Le CRB, c'est le centre... c'est le laboratoire de recherche, quoi. Mais tu sais, le laboratoire pour le sérum, quoi, pour le sang, etc. S'il y a assez d'infirmiers, voilà, faut vraiment faire un tour global. Une fois qu'il a validé ça, nous, on reçoit l'étude... Et on va l'attaquer. Voilà. Et donc, si tu veux, ça peut être. Donc, soit ça peut être sur du produit, enfin des médicaments qui sont déjà sur le marché, qui sont en soins courants. Et en fait, moi, je vais tester tout ce qui est sécurité du produit. Donc, on va modifier, par exemple, la vitesse d'administration, etc. Donc ça, tu vois, ça c'est sur un produit qui est neutre, quoi. En fait, le patient, il risque rien. Si jamais il fait une réaction, bah, hop, on arrête et on repasse sur une vitesse normale, entre guillemets. Et là, le but derrière, si tu veux, c'est qu'en fait, ça vienne ensuite en soins courants. Donc, il y a un intérêt pour le patient et pour les infirmiers. Soit, sinon, on peut avoir des tests de médicaments qui ne sont pas encore sur le marché. Et donc là, tu vois, on va avoir des groupes placebo et des groupes avec le réel médicament et qui, au bout d'un certain temps, tous les groupes ont le médicament.
Et ça, voilà, est toujours avec le consentement du patient. On lui demande, est-ce que vous acceptez de participer à un protocole expérimental, etc. Okay.
En fait, voilà, le patient, dans un premier temps, on lui présente l'étude. Donc, c'est présenté par le neurologue. Ensuite, il va lui donner la note d'information. Donc, en fait, la note d'information, ça va te dire comment va se dérouler l'étude, quels sont les risques engagés, etc. Donc, en fait, le patient est vraiment en connaissance de tout. Il signe son consentement. Le neurologue le signe aussi, enfin, ou le médecin, quoi. Et après, on lui explique bien qu'à chaque visite, ou même n'importe quand, il peut se retirer de l'étude.
Okay.
Donc, en fait, le patient, par exemple, il va rentrer. On part sur une étude de, je te dis une bêtise, 15 ans. Bah, si au bout d'un an, il me dit non, je veux plus, ok, on dit plus, c'est pas grave.
Okay.
Ah ouais, ouais, ouais. Et t'as pas le droit d'arriver, de dire ah, mais non.
Ouais, de l'inviter continuer à réfléchir, ou ouais, ouais, c'est sa décision.
Ah ouais, non, c'est sa décision. Tout ce qui est prélevé chez lui, etc., parce qu'on fait beaucoup de prélèvements sanguins, du coup, il a le droit d'avoir les résultats. Il a le droit de voir ce qu'on cherche. Il est en possession de son dossier médical, en fait, si tu veux.
Et ces traitements-là se substituent à des traitements habituels, ou c'est des choses en complément, ou ça dépend ?
Ça dépend. Des fois, ça va être, tu vois, sur un début de maladie, en fait, on veut juste un peu stabiliser la chose. Tu vois, donc ils vont mettre en place un traitement. Après, ça, c'est souvent sur des formes progressives. Par exemple, un traitement de première ligne qui n'a pas fonctionné, on propose un traitement de seconde ligne, mais il est déjà actif en soins courants. Enfin, voilà, nous, on va juste changer certaines choses. Mais si tu veux, le patient, ça ne lui change rien, parce que dans tous les cas, il doit faire sa visite tous les 6 mois actuellement. Pour avoir son traitement, et en fait il va avoir son traitement mais sous une forme différente, si tu veux.
Oui, j'allais dire, on va faire sur ça. De l'enfonçage de portes ouvertes, mais bien sûr tous ces protocoles visent à faire avancer la recherche clinique, mais ne sont jamais au détriment de la santé du patient. On fait toujours ça, voilà, je me permets de le préciser, mais on fait ça pour bien sûr que la recherche avance, mais l'objectif derrière, c'est la guérison ou la stabilisation d'une maladie, quelque chose.
Ouais, c'est pas des rats de laboratoire.
Voilà.
Ouais. C'est vraiment, voilà, quand c'est testé, si tu veux, nous, par exemple, on doit notifier un rhume sur nos études, tu vois. Quelqu'un qui a eu un rhume, on le notifie. Et en fait, ça va, quand tu expliques ton protocole, etc., tous tes protocoles, ils sont monitorés, on appelle ça. En fait, ça veut dire qu'il y a une vérification de tous tes dossiers, etc. Parce que tu as un dossier informatique et un dossier papier. T'as deux choses à chaque fois. Ils sont monitorés dans un premier temps, et après, nous, dès qu'on a des événements indésirables, tu vois, ben en fait, on fait remonter plus haut. Ça remonte au promoteur, etc. Et en fait, le promoteur, s'il voit que c'est trop risqué, il arrête. Il dit stop, on arrête, il y a trop de risques là, etc. Mais oui, les patients, si tu veux, c'est pas des rats de laboratoire, ils sont au courant de ce qui se passe à chaque fois. Donc voilà, et moi, si un jour ils arrivent, ben non, aujourd'hui je veux pas avoir la perfusion, ben d'accord, pas de souci. Ah oui, non, c'est votre consentement, il y a pas de souci. Alors après, si tu veux, il y a des études où ils peuvent être payés, les patients.
D'accord.
Donc c'est pas toutes.
Ouais, j'avais pas que c'était possible en France, ça. D'accord.
Ouais, si les patients, ils peuvent être payés pour leur participation.
D'accord.
Alors ça, ils sont au courant d'entrée aussi. Après, quand ils ne sont pas payés, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'en fait, si tu veux, donc soit il y a le remboursement des indemnités kilométriques, par exemple, ou alors, dans le cas de la CEP, par exemple, on fait passer des IRM, tu vois. Et dans le soin courant, c'est très compliqué d'avoir tout la même journée, d'avoir l'IRM, la perfusion, la visite avec le neurologue. Ben, nous, ce qu'on fait, c'est que dans le cadre du protocole, eh ben, on passe tout en même temps.
Okay.
Donc en fait, le patient, il vient une fois.
Ouais. Oui, faut qu'il y ait quelque chose de positif qui ressorte de ça pour lui, que ça rende au moins son parcours de soins plus simple.
Ben, c'est ça. Et après, moi, je suis très, très étonnée des patients qui se lancent dans ça hyper... Ils sont hyper en confiance, en fait. Et ils te disent, mais c'est génial, je vais participer à la recherche. Et ils sont trop contents, quoi. Limite, presque des fois, tu fermes des portes en disant, non, là, on ne peut plus inclure. On a trop de patients déjà, c'est pas possible.
C'est les bons samaritains.
Ouais, c'est ça, ils sont top. Parce qu'en fait, ils se disent, ben, à avoir ma maladie chronique, autant que mes données, elles passent quelque part pour
qu'elles
la recherche.
Aident pour les prochains, quoi. Ouais.
Voilà, et c'est génial. Après, tu vois, ça peut t'arriver de travailler sur de la génétique. Donc forcément, quand tu parles aux patients de génétique sur des maladies qui font peur à l'heure actuelle au niveau neuro, ben, eux, ils sont hyper contents parce qu'ils se disent ben, au moins peut-être que je vais avoir des idées pour mes générations futures, savoir si c'est héréditaire ou non, tu vois. Et ça, pour eux, ben, c'est vraiment le top, quoi.
Donc toi, sur le terrain, tu t'occupes de certains de ces prélèvements, de ce genre de choses, pour déjà être toi inclus dans tout ce parcours, et puis pour cette volonté aussi de décharger les équipes, de ne pas leur donner cette charge de travail supplémentaire.
Ouais, c'est ça. En plus, bon, tu vois, sur la neuro, tu traites beaucoup de maladies, donc il faut être assez, comment te dire, malléable. Parce qu'en fait, eh bien, je passe par la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, enfin, les AVC, tu vois. Donc, c'est assez... t'as beaucoup d'infos. Et dans la journée, tu passes, comme je te dis, de l'AVC, puis d'un coup, tu vas aller sur la CEP, puis d'un coup, tu... Voilà. Donc, c'est... faut bien connaître tes pathos, quoi. Après, la chance que j'ai, c'est que sur mon service, j'ai des infirmières spécialisées. Donc, j'ai une IPA qui est spécialisée en Parkinson.
Infirmière en pratique avancée.
Oui, pardon.
Ouais. Non, pas
infirmière
souci.
En pratique avancée. J'en ai une autre qui est une infirmière de consultation sur les AVC.
Ah, ok, super.
Et une autre infirmière qui est infirmière de consultation sur la sclérose en plaques.
D'accord.
Donc, en fait, quand je lis des protocoles, que je suis perdue parce que c'est en anglais et tout, et que je traduis, je comprends pas. On fait un point ensemble et en fait c'est génial parce qu'on est dans un même bureau.
Ah,
donc
super.
Si tu veux, on a les infos qui vont super vite, quoi. Donc, ça c'est un gros avantage, tu vois, que j'ai sur mon service. Et encore une fois, ben, en fait j'ai un filet de protection pratiquement chaque fois, quoi. Donc ça c'est pour tout ce qui est terrain. En tout cas.
Ouais. Et ton approche, du coup, elle est très complète parce que c'est prendre connaissance des protocoles que tu reçois, ceux dont tu parlais un peu plus tôt.
Ouais.
Alors, les traduire, voilà, s'il est nécessaire de les traduire, les comprendre, même si c'est en français. Ensuite, c'est mettre en place toute la suite des événements, donc ces fameux prélèvements, les examens, etc. Coordonner
c'est
tout
ça
auprès du patient et pour que les données vous reviennent de façon adaptée derrière. Et ensuite, il y a un compte-rendu des comptes-rendus à créer. Comment ça se passe derrière ?
Alors, du coup, en fait, si tu veux, tout ce qui est coordination, ça va dépendre un petit peu de tes études. Parce qu'en fait, les ARC, donc les assistants de recherche clinique, vont s'occuper de mettre en place les rendez-vous, etc.
Ah, d'accord.
Et moi, en fait, je suis leur backup. On appelle ça. Parce qu'en fait, si elles ne sont pas là, je suis capable de faire la visite complète. Mmh. Parce que tu as aussi des tests physiques, tu as plein de choses à faire passer à côté suivant tes études. Après, tu vois, là, actuellement, on est sur une étude où je suis référente. Donc, en fait, ben, là, c'est moi qui vais organiser les rendez-vous. Voilà, si tu veux, on se donne un peu les chemins, quoi, en gros. C'est vraiment, tu fais un peu le travail de l'autre. Après, tu vois, dans un an, je crois, enfin un peu moins d'un an, je vais passer un DU pour avoir les mêmes compétences que les ARC.
D'accord.
Donc en fait, je vais être infirmière plus ARC. Donc là, on sera pareil, si tu veux.
Même
et
niveau.
Après, donc, quand le patient, si tu veux, va venir sur sa visite, moi, je fais les prélèvements, etc. Je trace mes soins. Comme normalement, on a tout dans un dossier de soins, etc. Je trace mes soins et ensuite le compte-rendu va être fait par un neurologue, mais comme une visite classique.
D'accord.
En fait. Il va dicter voilà, ce qui s'est fait. Aujourd'hui, il vient dans le cadre du protocole, machin et tout. Et puis à la fin de l'étude, eh ben, y a une synthèse qui est faite en fait, sur l'étude avant qu'elle soit publiée. Et donc, si tu veux, elle va finir cette synthèse, elle va finir l'étude et montrer les résultats si on est dans le cas de l'hypothèse, bah, si elle est OK ou au contraire si l'hypothèse n'était pas bonne. Quoi, tu vois.
Et ça, tu as connaissance, voilà, de la finalité de tout ça. J'ai toujours peur, ouais, des fois dans ces métiers-là, dans ces rôles-là, qu'on n'ait qu'une partie, tu sais, de l'étude
non,
et que
non,
ça
non.
soit frustrant parce qu'on ne connaît pas la fin. Mais donc, toi, tu la connais.
Ouais, en fait, je la connais. Bon, après, il faut savoir que dans certaines études, les soignants, les ARC moniteurs, et les neurologues, on est en aveugle. C'est-à-dire que, par exemple, sur les groupes placebo, nous, on va donner le blister, si tu veux, du patient. On ne sait pas s'il a le placebo ou pas le placebo.
C'est ça, d'accord.
Voilà. Après, les patients sont très malins. Parce qu'on est souvent sur des patients experts, on appelle ça. Et donc, en fait, ils nous disent « Ah, là, j'ai pas ça. » Et puis, quand ils passent en levée d'aveugle, c'est-à-dire que là, on donne le traitement à
tout le monde.
Voilà. Et ils te disent « Mais je crois que j'avais le placebo parce qu'avant, j'avais pas ça.
Ah, »
Ou
punaise.
Avant, j'avais pas ça.
Ah.
Et nous, on est là et on fait « Ah, peut-être, on sait pas. »
Ah là là, ils sont... Ben, après, c'est vrai que c'est... C'est légitime aussi de se poser toutes ces questions-là. Et heureusement, ça veut dire qu'ils s'investissent dans ce qu'ils vivent. Mais oui, donc ça, vous n'avez pas connaissance de voilà quel groupe à quel moment.
Non.
Ça permet de garder voilà la sécurité de l'étude aussi et de pas influencer, de pas influer sur quoi que ce soit.
Ben voilà, sécurité de l'étude et puis de comme tu dis de pas influencer parce que même je veux dire, même si quand t'es infirmière, on te dit oui, il faut être avec tous tes patients de la même façon, etc. Il y a des patients qui nous touchent plus que d'autres.
Bien sûr.
Et qu'en fait, eh ben, peut-être qu'on va être plus patient. Peut-être que, voilà, s'il veut pas qu'on lui pique son antibio maintenant, eh ben, on va reculer. Enfin, tu vois, des choses comme ça, que peut-être sur un autre patient, on dira ah, non, il faut le faire maintenant. Donc là, sur une étude, t'as trop de risques. Si tu sais que tu as le placebo et que tu as un patient en face de toi qui te dit ça va pas, machin et tout, tu dis, je sais pas, moi je suis trop dans l'affect, je vais lui dire, bon écoute, vous avez le placebo. Non, je rigole, je ferai pas, mais.
Et est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui nous écoutent cette notion de double aveugle, elle n'est pas forcément toujours simple à comprendre, mais voilà, qu'est-ce qui explique que. Tu vois, il y a peut-être des personnes qui vont se dire, ça veut dire qu'on ment à la personne qui a un placebo. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Explique voilà, qu'on donne à un groupe test tel ou tel médicament, mais qu'à l'issue du protocole, tout le monde aura reçu la dose
Ben, en fait, c'est pour. Donc, quand on fait ces études comme ça avec deux groupes placebo et médicaments, vrais médicaments, entre guillemets, voilà, c'est ce groupe-là, ces deux groupes-là vont avoir les mêmes tests, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les mêmes prélèvements, ils vont avoir. Tout est identique. Et donc, en fait, le but du jeu, c'est de comparer les deux groupes, de voir, ben voilà, le patient qui a le placebo. Sur ces analyses, on voit ça. Et le patient qui n'a pas le placebo, sur ces analyses, on voit ça. Et en effet, on voit une différence. Ou au contraire, on ne voit pas de différence. Donc, c'est-à-dire que le traitement n'a pas d'incidence, en fait. Donc, on va vraiment faire cette particularité entre les deux groupes et voir, comparer, en fait, si tu veux, comparer ces deux groupes et dire, ben, là, on voit que le traitement est plus efficace ou moins efficace, etc. Et on laisse cette porte-là ouverte, si tu veux, pour voir vraiment l'incidence, quoi. Donc, majoritairement, on est sur 3 mois à chaque fois. 3 mois d'essai. Parce qu'en fait, eh ben, on te dit que 3 mois, c'est le temps que le corps y met pour assimiler le traitement, voir les premiers changements, etc. C'est comme les compléments alimentaires pour les cheveux. Hein,
c'est vrai,
3 mois.
C'est toujours écrit ça sur la boîte.
3 mois. Mais du coup, voilà, majoritairement, on est sur des 3 mois. Et au bout de ces 3 mois, on lève cet aveugle et en fait, tous les patients bénéficient du traitement. Et donc, ben, forcément, les autres, là, ceux qui ont eu le traitement d'entrée de jeu, ils auront, je te dis une bêtise, 6 mois. Et ben, le groupe qui l'a eu après, il aura 6 mois aussi. Mm-hmm. Mais en fait, on va être décalé, tu vois. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si tu veux, nous, dans les études, ça nous sert beaucoup parce que ça nous permet de mettre en avant la nécessité d'un traitement. Mm-hmm. Ou au contraire, de dire, en fait, là, on fait fausse route et on lève ce traitement parce qu'en fait, il ne sert à rien, quoi. Mmh. Donc, voilà. Et en fait, on teste sur beaucoup de patients dans le sens qu'il nous faut des patients d'un âge différent. Il nous faut des patients qui soient de sexe différent. On regarde aussi, par exemple, quel métier ils font. Enfin, tu vois, on regarde plein de choses parce que vu qu'on est sur la neurologie, quand même, il y a la plasticité du cerveau, etc., qui rentre en jeu. Et donc, forcément, quelqu'un qui a été sur un métier qui va être beaucoup plus... je te prends l'idée de l'usine, tu vois, où tu fais tout le temps le même mouvement.
Répétitif, ouais.
Voilà, répétitif. Et à côté de ça, un autre métier maîtresse, par exemple, où ça te demande beaucoup d'interaction, etc., est-ce que le traitement va être vécu de la même façon? Peut-être pas. Tu vois, on ne sait pas, ou peut-être que la qualité de vie, elle sera différente.
Oui, parce donc que nous, l'environnement dans lequel le patient évolue, ça peut avoir une incidence sur la suite des choses. Okay.
Ben oui, parce que si tu veux, dans les études, on regarde, enfin en tout cas sur les études qu'on a actuellement, on regarde aussi pas mal la qualité de vie, tu vois, quelqu'un qui fait du sport. Est-ce que c'est important, pas important? Enfin, tu vois, c'est hyper important. Et de plus en plus, tu vois, l'activité physique, elle vient sur les maladies neuro, quoi.
Ouais, clairement.
Comme un genre de traitement.
Ouais, ouais. Dans les cancers donc, aussi, hein, dans les suites de cancers, ouais. L'activité physique de X minutes, je ne sais plus combien de fois par semaine, il y a des études aussi qui ont été faites. Oui, donc c'est là, du coup, que j'ai envie de dire que tous tes métiers se rassemblent, du coup. Ça, et ça mais prouve que, voilà, maintenant,
projet, ouais.
Ouais, ce dans quoi tu exerces, ça a du sens, quoi, avec ces premières
études. C'est un projet parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'infirmière de recherche clinique, je peux écrire.
D'accord.
Donc, je peux écrire sur tout ce qui est pratique infirmière pure. Et après, je peux écrire aussi sur quelque chose qui est beaucoup plus poussé, tu vois. Et moi, le but, c'est de rallier un petit peu l'activité physique avec ce que je vois actuellement en service. Mais c'est en train de travailler, là, tu vois. Je fais mes petites analyses de mon côté. Et ouais, le but, c'est d'allier mes deux métiers.
Et quand tu dis écrire, ça veut dire être publié après dans les revues scientifiques
Ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est être publié dans les revues scientifiques. Alors, tu vois, ça, c'est toute une partie qu'à l'école, on ne te dit pas. Mais en fait, le monde de la recherche infirmière, il bouge énormément.
C'est vrai.
Ah, moi, je veux des colloques, etc., qui se passent. Et je lis, tu vois, les études qui sont en train d'être montées. Je me dis, mais les mecs et les filles, ils ont des idées de dingue, quoi. C'est génial, ce qu'ils proposent. C'est vraiment incroyable. Et tu vois, même en tant qu'infirmière de recherche, t'es amenée à bouger. Et ça, c'est super bien. Tu peux être amenée à aller sur, tu vois, les congrès nationaux, aller chez les laboratoires, etc. Et moi, au début, j'avais pas du tout cette notion-là. Et puis, jusqu'à que je reçois une invitation, « Bonjour, vous êtes invitée. » Je me dis, mais ils ont dû se tromper, c'est pas possible.
Et pourtant, c'est bien mon prénom.
Voilà, c'est mon prénom, mon nom, tout va bien. Et en fait, tu pars 2 jours dans la France pour rencontrer d'autres neurologues, d'autres infirmiers de recherche, d'autres... Enfin,
Donc, c'est que le début, bien, en fait. Quoi.
Ouais, j'espère. Ouais, c'est que le début. Et puis voilà. Enfin, en plus, je crois que c'est un métier, tu vois, qui n'est pas trop expliqué à l'école infirmière.
Non, clairement.
Voilà. Et qui, pourtant, a vraiment des qualités énormes. Mmh. Enfin, je veux dire, là, de plus en plus, on reçoit, tu vois, des étudiants. Donc, c'est une volonté du service qui passe un peu avec moi, tu vois, pour qu'ils comprennent mon job.
Ah, super.
Et que moi aussi, je reste dans l'encadrement. Et ce qui est génial, c'est que souvent, je les vois en hôpital de jour. Et après, si je monte en neuro, en service, je les recroise.
Ah, ouais, donc en fait,
voilà, ils comprennent. Et des fois, je peux les prendre avec moi sur des soins. Et en fait, ils sont trop contents parce que je l'encadre. Ils valident des trucs, c'est trop bien. Et quand on en parle, souvent, en fait, ils sont hyper... ils sont happés, tu vois. Quand j'en dis, ouais, je suis infirmière de recherche et tout. Ah bon ?
Tu veux dire quoi ?
ouais, ça veut dire quoi ? C'est quoi ton job ? En plus, je suis en blanc comme tout le monde.
Ouais.
Et en fait, je leur explique et je leur dis, là, si tu veux, j'ai un prélèvement à aller faire. Et tu vois, mes tubes, ils ne sont pas étiquetés. Le patient, c'est un numéro. Donc voilà, si tu veux, on va le faire ensemble, machin et tout. Il faut marquer tes heures, il faut tout marquer. Ah ouais, trop bien. Et en fait, souvent, je leur laisse mon mail. Et ils me recontactent par derrière en me disant est-ce que je pourrais revenir avec toi ? Ou tu vois, est-ce que ça te dirait d'intervenir en école ? C'est passionnant. Enfin, tu vois, ils sont friands, quoi, alors que moi, j'aurais jamais pensé.
Tu sais, ça me fait penser à l'école d'infirmière, on nous parlait beaucoup. Par exemple de l'infirmière hygiéniste, alors qui est un maillon essentiel hein, dans tout ce qui se passe à l'hôpital. C'est un poste qui était beaucoup décrit, on nous expliquait son rôle, souvent elle venait nous voir pendant les stages, mais voilà, l'avenir aussi c'est qu'on parlera des infirmiers en recherche clinique comme on parle des infirmiers hygiénistes, ou tu vois, ça va, non mais vous allez devenir oui, enfin, ça va devenir une évidence, quoi. Votre rôle sera complètement inclus. Enfin, ça, il faut y croire, c'est certain. Mais c'est que le début, ça avance. Et c'est chouette. Et j'ai l'impression que, du coup, tout ce que tu nous dis, je pense, répond à la question que je vais poser. Mais tu te plais, du coup, dans ce rôle-là.
ouais, c'est génial parce qu'en fait, ça combine tous mes trucs, si tu veux, dans le sens que je veux faire du soin. Mais en même temps, je ne veux pas être infirmière de service parce que je me rends compte que elle croule sous le travail et qu'il y a beaucoup de le côté social est en train de passer à la trappe parce qu'elles n'ont pas le temps.
Bon, clairement.
Pas parce qu'elles ne veulent pas, hein, mais parce qu'elles n'ont pas le temps. Et que, voilà, moi, je veux pas faire ça. Le raisonnement infirmier, je le vois de plus en plus s'éteindre un peu dans les services parce que, de nouveau, ben, on n'a pas le temps d'aller plus loin que ça.
Enfin, puis on automatise plein de choses pour pouvoir gagner du temps et optimiser les journées.
Mais carrément,
ce qui est normal. Hein.
Voilà, tout à fait. Elles n'ont pas le choix, quoi. Enfin, il et elles n'ont pas le choix. Et moi, en fait, ben, ce raisonnement clinique, raisonnement infirmier, raisonnement clinique, je l'adore. Mm-hmm. Et en fait, je me rends compte que dans le métier d'infirmière de recherche, eh ben, il est tout le temps sollicité, tu vois. Et en plus de ça, ben, la chance que j'ai dans mon service, c'est que j'ai la possibilité d'encadrer des étudiants.
Ouais, c'est super.
Donc, en fait, c'est vraiment mon fil conducteur qui est important parce que je me dis, ben, tu fais connaître ton métier. Et en plus de ça, tu restes en contact avec des étudiants. Donc, ben, moi, les étudiants, j'aime beaucoup parce que si tu veux... Ils sont à l'école, donc ils connaissent les bonnes pratiques, etc. Mmh. Et ça m'intéresse toujours de savoir qu'est-ce qui se dit à l'école. Mmh. Tu vois, qu'est-ce qu'on vous dit là à l'école actuellement et tout.
Et ça évolue vite.
Et
hein.
Je trouve ça... Ouais, bah, je vois là, rien que sur les postes de cathéter, etc. Ouais. Mais en fait, moi, je n'ai pas du tout appris comme ça. Ouais. Et donc, tu vois, c'est vrai que les étudiants, quand tu tombes sur des étudiants qui sont motivés, etc., mais c'est des perles, quoi. Mmh. Tu prends beaucoup de temps. C'est sûr, mais c'est hyper gratifiant. Et tu vois, en plus de ça, quand ils sont réceptifs à un métier comme infirmière de recherche, et en fait, ils sont hyper curieux, ils sont hyper à l'écoute, et ils te posent des questions qui sont vachement pertinentes, ben, je me dis, ce métier, c'est une pépite, quoi. Faut vraiment le valoriser. Et il faut, toi, en tant qu'infirmière de recherche, essayer de faire au mieux pour qu'il ressorte au mieux, en tout cas. Donc c'est vraiment, je te dis, c'est vraiment un métier que moi j'y suis allée un peu à l'inconnu. Et
bah
que...
ouais.
Ah ouais, non, mais complet. Hein. Et en fait, c'est énorme, quoi. C'est énorme et je pense qu'il mérite d'être connu un peu plus dans les écoles. Ouais.
Clairement, ouais, ouais. Et de quoi est-ce que tu manques, toi, au quotidien pour exercer ce métier comme tu l'entends ?
Mais en fait, là, c'est compliqué, tu vois, de me dire qu'est-ce que je manque. Je crois que je manquerai d'une autre infirmière de recherche pour qu'on puisse, tu vois, échanger et vraiment que je prenne du recul sur mon poste. Mm-hmm. Dans le sens que, tu vois, il y a certainement des choses que je fais qui ne sont pas bonnes. Ou, tu vois, une fille qui travaille et qui travaille différemment de moi, en fait, ou un mec, et je me dis, ah, purée, ça, ce qu'il fait, c'est super bien, il faudrait que je l'inclue dans mon truc, tu vois. Mm-hmm. Un peu plus de communication entre les infirmiers de recherche. Sur tous les centres, parce qu'en fait les centres ils sont dans la France entière et c'est rare qu'on soit un seul centre sur une étude. La plupart du temps on est des dizaines de centres.
Oui, c'est ça, d'accord.
Donc peut-être un peu plus de communication entre les infirmiers de recherche, ou tu vois, un peu plus de colloques, qu'on puisse parler ensemble, dire
un outil, quelque chose pour que vous puissiez communiquer entre vous, entre CHU, quoi. Ok. Et comment ton métier est vu Alors c'est difficile parce que peut-être que les gens vont jamais te le dire en face, mais je pense qu'il y a quand même des ressentis dans les services quand tu te déplaces. Ouais. Est-ce que tu te sens prise au sérieux? Est-ce que comment s'adressent les équipes vis-à-vis de toi?
Alors si tu veux, t'es un peu un ovni parce que dans un premier temps, les gens ils comprennent pas la recherche. Ouais, tu fais quoi? Ouais. Alors la première truc qu'on te dit, et tu trouves? Alors souvent ce que je réponds c'est si je trouve je suis au chômage, donc non.
Donc je cherche.
Donc je cherche beaucoup. Et en plus c'est pas moi qui cherche, c'est les médecins, mais bon. Non, en fait si tu veux, ce qui fait tilt dans les services, c'est quand on leur dit, mais vous savez que là, s'il y a des nouveaux lits, s'il y a des nouveaux chariots, etc., c'est aussi parce que la recherche elle contribue. Et alors là, ah bon, mais comment ça? Ben ouais, parce que quand nous on engage une recherche, on a des fonds qui nous sont donnés et tout ne va pas à la recherche. Il y a des choses qui vont aussi à ton centre, enfin à ton hébergeur, entre guillemets, donc, c'est-à-dire ton CHU.
D'accord.
Donc en fait, si tu as des moyens supplémentaires en infirmier, ou si tu vois ton lit de la chambre 401 il était cassé, on a pu le réparer et ça te permet de pas casser le dos quand tu fais ta toilette, Mais je vais pas te dire que le lit complet il a été financé par la recherche, mais il y a une roue en tout cas à la partie de la recherche.
Oui, la recherche finance, enfin participe à votre effort bien sûr de façon financière.
Ah oui, oui, d'accord. Oui, il n'y a pas tout qui va à la recherche. Okay, t'as une partie en fait qui bascule sur l'hébergeur qui est le CHU.
Ah ouais, donc ça c'est super intéressant à dire aux équipes. Ah ouais.
Voilà. Ah ouais. Et ça en général c'est ma première approche. Ouais. Et donc, en fait, là, ils réfléchissent.
Ils se disent, bon, ok. Disent, ah,
peut-être qu'on va être un peu sympa avec elle. Et après, il y a vraiment une façon d'être, je crois. C'est que, en fait, moi, j'arrive un peu, tu sais, comme un cheveu sur la soupe dans le service. C'est-à-dire que tu arrives dans une équipe qui est hyper soudée. Mmh. Où il y a forcément ces histoires. Parce qu'on est quand même sur des trucs un peu féminins. Donc, voilà. Et voilà, avec des affinités entre eux. Ce que j'essaye de faire, c'est d'aller faire des relèves, tu vois, avec elles, enfin, ou avec eux, d'aller faire des relèves, en fait, et d'essayer un peu d'analyser tout le monde et de dire, bon, ben, elle, je vois qu'elle aime que ces choses, ça soit carré.
Ah,
je comprends qu'elle a son tour, tu vois, qui est un peu comme ci, comme ça. Et en fait, ben, comme ça, quand je monte en service ou quand je suis en HDJ, que je vois l'infirmière et que je vois que ça va pas, par exemple... Bah, je vais pas aller la solliciter, tu vois. Je vais dire, bon, ça peut attendre cet après-midi, c'est pas grave.
Ah, faut être tu fine psychologue pour réussir à s'adresser aux bonnes personnes au bon moment, de la bonne façon aussi.
Ouais. Mmh. Bah, ça, on dit merci le STAPS parce que t'as des cours de psychologie en STAPS et notamment sur tout ce qui est un peu, tu vois, langage corporel, etc.
Ouais,
très bien. Et du coup, ça me sert, à l'heure actuelle, ça me sert pas mal. Après, j'ai un caractère, enfin, moi j'ai fait pratiquement que des sports un peu masculins, tu vois. Enfin, j'ai fait du rugby, donc forcément, faut que ça aille un peu... Enfin, c'est soit noir, soit blanc, quoi. Mm-hmm. Du gris, j'ai un peu du mal, quoi. Et donc, du coup, en service, je me comporte un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à dire, on se le dit. On a crevé l'abcès, c'est bon.
Ouais, on passe à autre chose.
Non, on passe à autre chose.
Ouais, ouais.
Voilà. Et j'accepte tout à fait que quand j'arrive en me disant « Oui, il faut que j'aille faire des prélèvements à tel endroit. » Et quand on me dit « Ah, oh, ça, c'est pas maintenant. » Ok.
Ouais, mais on se le dit.
Mais par contre, voilà, c'est dit. Mais par contre, si je reviens dans 2 heures et que je te vois en salle de pause, ma chaîne ne me met pas un tir, quoi. Mm-hmm. Enfin, tu vois. Donc, c'est vraiment... en fait, c'est du donnant-donnant en permanence. Mm-hmm. Et moi, c'est vrai qu'en tant qu'infirmière de recherche... Il faut comprendre que je suis un peu invitée dans les services, dans le sens que je ne suis pas chez moi.
Ouais.
Les patients, je ne les connais pas. Et il faut que j'établisse mon lien de confiance avec mes patients, parce que c'est normal. Tu viens leur faire des traitements, ils ne te connaissent pas. Voilà, il faut qu'on parle ensemble d'abord. Et après, je vais faire mes soins. Mmh. Et après, il faut surtout... je pense qu'il faut avoir un peu des épaules un petit peu solides, parce que tu as une pression qui est directe. C'est-à-dire que... Tu vois, quand tu fais une erreur sur ton protocole, eh ben, ça peut avoir une répercussion sur la suite. Mmh. En fait, si tu as trop d'erreurs sur un protocole, ben, tu prends comme des sanctions.
Ah, d'accord.
Donc, voilà. Donc, en fait, eh ben, si tu veux, il faut que tu sois carré dans ton taf, quoi.
Ouais,
en fait,
hyper rigoureux.
Et après, ben, ouais, hyper rigoureux. Et en fait, il faut comprendre que, tu vois, les neurologues ou les médecins, quand ils veulent inclure des patients... Ben eux, ça leur tilte de suite, quoi. Ils ont le patient en face, ils sont sur l'ordi et ils se disent oh, « Si lui, je le fais passer en étude, ça va être que bien, etc. » Et en fait, ils sortent « Oui, on le met dans l'étude, machin. » Et donc, t'es là « Ok, d'accord. Machin, dans quelle étude et quels sont mes soins, machin. Oh, » Ouais, ok, c'est bon, j'y suis. Allez, hop. Donc, à côté de ça, t'as le patient et qui est là. On m'a parlé d'études, on m'a expliqué l'étude. J'ai tout compris, mais rien compris.
Ouais, ouais. Faut tout reprendre.
Parce que bah, souvent, ce qui arrive sur les patients, c'est que quand on leur dit vous rentrez dans une étude, tu sais, en général, ils n'ont pas eu une super nouvelle ou peut-être une nouvelle qui ne les réjouissait pas tant que ça. Et en fait, ils vont rentrer sur l'étude, mais je vais être cobaye, mais est-ce que je risque des trucs? Est-ce que je risque de mourir? Tu sais, ils ont de suite l'image du rat de laboratoire qui tourne dans sa roue, tu vois, avec tous les mecs en blouse blanche et comme ça, enfin... Alors non, pas du tout, pas du tout. Et donc on repose le truc ensemble, les assistants de recherche, là, les arcs, reposent aussi les choses avec le patient, on reprend du temps ensemble, enfin tu vois, c'est...
Et l'image du traitement et ça, de la dernière chance aussi, enfin moi j'avais vécu ça en...
Ouais.
Qu'est-ce que c'était comme stage? J'étais en cancéro, je crois que c'était de l'hôpital de jour, et il y avait voilà, des essais cliniques pour des patients, et il y en a quelques-uns qui tout de suite interprétaient ça comme « Maman, on a tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne, donc on me met dans un truc expérimental pour, de toute façon, je vais mourir. » Donc, et il faut réussir à leur expliquer, non, vraiment, c'est pas du tout... comme ça que ça se passe, c'est tellement tellement plus compliqué que ça, et si on le fait, c'est parce qu'il y a forcément un intérêt derrière pour vous, sinon on le ferait pas, et vous êtes pas voilà juste un rat de laboratoire. Mais ça c'est probablement alors peut-être des choses qu'ils entendent qu'ils comprennent mal, et puis aussi de l'imaginaire qui fonctionne un peu vite, quoi.
Je l'avais remarqué en HAD quand tu fais signer les directives anticipées. Tu vois, nous, on les faisait signer en systématique parce que, on avait connaissance du dossier quand même. Et les patients, quand ils rentrent à la maison, ils sont chez eux, il y a la famille autour. Donc, des fois, il y a un effet rebond. Mm-hmm. On va te dire, ils ont meilleure morale. Puis, des fois, au contraire, voilà. Et donc, tu vois, quand on leur faisait signer les directives anticipées, ils se disaient, ça y est, j'ai un pied dans la tombe.
Donc, c'est des directives qu'on leur fait signer pour, en gros, anticiper des souhaits de fin de vie. Mais ces directives, elles interviennent bien avant justement la fin de vie pour pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause. Quoi.
Exactement. Exactement, c'est savoir si on veut une réanimation, si on ne la veut pas, si on veut être intubé, si on ne veut pas, etc. Et donc, nous, on les faisait signer parce que forcément, un patient qui rentre à la maison en soins palliatifs, on veut au maximum respecter ces directives anticipées. Et les directives anticipées, elles sont révocables. Donc, c'est-à-dire que si du jour au lendemain, on ne veut plus faire telle ou telle chose, on arrête et on change nos directives. Et en fait, si tu veux, je l'ai un peu comparé. C'est comme moi, quand je fais signer... Enfin, quand je récupère un consentement, du jour au lendemain, on peut l'arrêter, tu vois. Et les patients, ils ont souvent cette même réaction de dire « Oh purée, j'ai un pied dans la tombe. » Ou comme tu dis, c'est le traitement de la dernière chance. Tellement que j'ai plus de chance. Je pars sur un truc, on sait même pas si ça va marcher, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Directives anticipées, moi, j'aimais bien leur dire, mais vous savez, moi, j'ai 24 ans et je les ai signées, mes directives anticipées. Ah bon ?
Ah ouais,
moi, j'ai choisi ça et ça.
Mais comme un testament, comme plein de choses. Hein. Ouais.
Voilà. Et ça dédramatisait tout, en fait. Donc, là, c'est ce qu'on fait actuellement, des fois, sur les consentements. Ils me disent, par exemple, vous en pensez quoi ? Je peux pas vous dire qu'est-ce que j'en pense, mais ça m'est arrivé de leur dire par exemple il y a une étude qui se fait sur des volontaires sains, je vais la faire. Ah bon et tout, je dis oui mais je m'en fous, si demain je me lève et que je veux plus la faire, je la fais plus.
Ouais, c'est important de leur parler de cette notion de liberté. Mais tu vois, pour les directives anticipées, moi, c'était... j'avais des patients, pareil, qui tiquaient, mais je pense que ça se comprend. Et je leur disais, mais vous savez, si demain, vous allez à l'hôpital vous faire opérer des dents de sagesse, on va demander quelle est votre personne de confiance. Mais en fait, quiconque met les pieds à l'hôpital pour une raison lambda, on va demander une personne de confiance pour prendre des décisions... si lui n'est plus en mesure de les prendre, mais même pour un angle incarné, je veux dire. Mais c'est juste anticiper, c'est ça, quoi.
Oui, c'est anticipé. Après, c'est un peu le maître mot de notre métier aussi en tant qu'infirmier.
C'est sûr.
Il faut vraiment que tu anticipes le truc à fond, quoi. Et les patients sur ça, ils sont... Au début, tu vois, ils sont un peu...
méfiants.
Comment te dire ? Méfiants, craintifs. Et puis après, en fait, ils sont en roue libre. Mais ils ont confiance. Et puis en fait, ce qu'ils aiment, c'est que quand ils sont en protocole, ils ont une infirmière attitrée.
Ouais, c'est sûr, c'est confortable.
Donc, en fait, tu vois, quand ils sont, par exemple, sur l'HDJ, tu vois, nous, on a des box actuellement où il y a 8 lits, 8 strikes, là. Tu sais, c'est des petits sièges.
Des petits brancards.
Où les gens s'installent, pour venir faire leur perfusion. Et donc, moi, mes patients, ils sont au milieu des patients de soins courants, si tu veux. Et des fois, les autres, ils m'arrêtent, ils me disent « Pourquoi vous occupez que de lui ?» Et je lui dis « Moi, je suis l'infirmière de la recherche clinique. » Donc, du coup, je m'occupe que de lui. Aujourd'hui, j'ai vraiment que cette personne parce que j'ai des surveillances, par exemple, tous les quarts d'heure à faire. Ah ouais ? Et les autres infirmières ? Je dis, les autres infirmières, admettons, elles sont deux pour une dizaine, tu vois, huit. Ah, et il faut faire quoi alors pour rentrer en protocole ? Attendez, on va en parler si vous voulez, donc on en parle. Et donc du coup, les patients de protocole, ils sont hyper contents parce qu'ils se rendent compte, si tu veux, qu'ils sont surveillés un peu comme le lait sur le feu.
Clairement.
Et qu'en fait, ils sont suivis comme les autres patients. Donc, tu vois, quand ils sont avec nous sur l'HDJ, par exemple, ils se disent « Ah ben, tu vois, j'ai la même visite que les autres patients. Mmh. » Mais j'ai un petit plus, c'est que, voilà, moi, si j'ai un problème, j'ai vraiment que l'infirmière.
Ouais, ils ont une interlocutrice privilégiée.
S'ils ont des problèmes, ils m'appellent moi, en fait.
Ouais, c'est
j'ai
génial.
Une ligne professionnelle et ils peuvent m'appeler. Et après, ben, en fonction, on fait remonter au neurologue ou non. Mais en tout cas, tu vois, ils ont dans leur téléphone, ils ont leur petit numéro avec écrit infirmière de recherche et voilà.
Ah, c'est super.
Donc, ils sont contents pour ça.
Bon, bah, génial. Merci, Elsa, hein, pour tout ça.
Bien.
J'ai l'impression qu'on pourrait en parler encore 2 heures parce que c'est t'as un domaine de compétences qui est très, très large. Et comme on disait, finalement, c'est que le début, quoi. Il y a encore tout à faire pour faire connaître le métier et puis toutes les évolutions que tu vas connaître aussi.
J'espère. Hein.
Ah, bah, c'est certain. Puis en plus, t'es toute jeune, donc c'est génial aussi du coup de prendre le train en marche maintenant. Je pense que t'auras pas assez d'une carrière pour faire le tour de la question, mais.
Non, ouais, ça va être beau.
Ouais.
Je pense que ça va être sympa.
Ça va être riche.
Et j'espère que ça va être riche et puis j'espère que tout ce qui est étudiant, etc. Ça va être ils vont être contents d'avoir, tu vois, des plus d'infos parce que en fait, il y a pas besoin de spécialisation à part un DU, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ça, le DU, tu peux le passer une fois que tu es en poste.
C'est ça, oui, tu peux être en poste et puis passer le DU dans un deuxième temps. Bah, c'est ce que tu vas faire du coup.
Ouais, moi c'est ce que je fais et ça va se passer en fac de médecine.
D'accord.
Et c'est 2 jours et demi par mois pendant 6 mois, je crois.
Ah, ok.
Et en fait, mon stage, entre guillemets, bah, c'est mon travail.
C'est ton travail, ouais. T'es déjà en place.
Voilà,
ah ouais, c'est
donc
super.
C'est top.
Ben voilà, moralité, si vous voyez une offre d'emploi infirmière en recherche clinique, ben faites comme Elsa et dites-vous, ben pourquoi pas.
Ben un jour, tu vois, j'avais un... Enfin, moi, je suis passionnée de rugby, tu vois, et j'écoute des podcasts justement d'entraîneurs, etc. Et il y en a un l'autre fois, j'ai dit, purée, mais il a raison. Il a dit, en France, la curiosité, elle est souvent vue comme un défaut. Tu sais, on te dit, la curiosité, t'as un vilain défaut. Et en fait, il dit, moi, je suis pas d'accord. J'estime que la curiosité, c'est attirer la chance.
Ah, c'est vrai.
Et en fait, je me suis dit, mais il a raison.
Bah, c'est très vrai pour toi.
Donc voilà, c'est surtout pour n'importe qui, même les infirmières qui touchent un peu le fond, tu vois, et qui se disent, je vais arrêter d'être infirmière.
Ouais.
Aller sur peut-être des métiers qui bifurquent un peu du service normal.
Complètement, pour un nouveau souffle, quoi. Ouais, je suis d'accord.
Ouais, pour un nouveau souffle et retrouver l'essence de ce qu'est infirmière, c'est-à-dire prendre soin des gens, mais prendre soin de soi aussi. Parce que si on ne prend pas soin de soi, on ne pourra pas prendre soin des gens.
Ouais,
à un moment donné, on va bifurquer, hein, c'est obligé.
Mais tu vois, je crois que je l'ai fait un peu involontairement, mais sur les derniers épisodes, j'ai reçu une infirmière en pratique avancée, une infirmière coordinatrice en EHPAD.
Oui.
Toi, enfin voilà, je pense que c'était inconscient, mais c'était aussi parce que je vois à quel point c'est difficile en ce moment d'exercer ce métier en France et ailleurs, hein, parce que je vois que même en Suisse, tu vois, là où j'ai exercé pendant presque 10 ans, ça devient même difficile. Hein, ça prouve
que les
choses se compliquent un peu de partout. Et je pense qu'inconsciemment, c'était la volonté aussi de montrer que il y a plein de ramifications et que finalement, si on a besoin d'un nouveau souffle. Il y a toujours une possibilité, quoi.
Ah ouais, non, mais carrément. Enfin, moi, tu vois, quand j'ai fait, j'ai fait mon burn-out, là, j'ai dit à mes parents, mais vous savez quoi, s'il faut que j'aille ramasser des fraises ou des melons, je vais aller le faire.
Ouais.
Mais ne m'envoyez pas infirmière là-bas.
Ouais.
C'est hors de question. Et en plus, dans ma tête, je me disais, mais ça fait 1 an et demi que t'es infirmière, t'es déjà en burn-out, qu'est-ce qui se passe, quoi.
Ouais,
bon, après, j'étais passée par un truc extrême aussi, tu vois.
Ouais.
Mais en discutant autour de moi avec des copines de promo, etc., tu vois, on se rend compte que les jeunes diplômés, eh ben on est vite fracassés, en fait.
Ah bah, c'est évident.
Et qu'il nous faut, un second souffle. Et tu vois, la plupart, je vois, il y en a, ils font des réorientations. Ça fait qu'un an de diplôme. Mmh. Mais en même temps, c'est tellement compréhensible.
Mmh.
Donc vraiment, pour les infirmières, tu vois, qui ont besoin de ce second souffle, mais qui, en fait, ont ce métier dans la peau, parce que je pense que c'est un métier que tu as dans la peau pendant un certain temps, ça peut être des portes, en fait.
Mmh.
Et tu restes infirmière avant tout. C'est-à-dire que si devant toi, il y a une situation d'urgence, les automatismes vont revenir immédiatement.
Ouais,
j'en ai vécu une il y a moins de 2 semaines et ça s'est vraiment passé. Et je me suis dit, oh ben ça va, tu vois, t'as rien perdu.
Ouais. Ah ben c'est comme le vélo, ça s'oublie pas.
Voilà, je me dis, oh ben c'est bon. Même pas besoin des petites roues. mais tu vois, du coup, t'es quand même infirmière avant tout,
ouais.
Mais t'as un petit truc en plus.
Ouais.
Donc, bah, c'est top, quoi.
Ouais, carrément.
C'est que mieux. C'est carrément. Que mieux. Voilà. Et moi, je pense aux infirmières qui sont en service, mais on devrait leur faire des statuts, quoi. C'est,
ah ouais, non, ça
c'est vraiment... c'est incroyable, hein, ce qu'elles vivent. C'est vraiment incroyable.
Ouais, je suis complètement d'accord.
C'est pour ça que nous, en tant qu'infirmières un peu spécialisées, on va dire, bah, c'est bien qu'on vienne aider les équipes, qu'on vienne les soulager, qu'on les comprenne aussi. Parce que souvent, bah, les infirmières qui sont spécialisées, ce qui est un peu facile, c'est de dire « Ouais, mais toi, t'es pas sur le terrain. » Bon, moi, je suis sur le terrain, mais en tout cas, je l'ai déjà entendu sur d'autres infirmières. « Ouais, mais toi, t'es pas sur le terrain. » Ouais, je suis pas sur terrain, mais j'ai peut-être des responsabilités différentes. Et peut-être que à nous deux, tu vois, on va pouvoir s'aider mutuellement.
Complètement. Donc,
mais c'est important de leur montrer qu'on est là pour eux aussi. Hein.
Ouais, vous êtes pas des ennemis. Et, ouais, clairement. Clairement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de méconnaissance. Et,
ouais.
Et la méconnaissance, elle amène à voilà, des réflexions qui sont parfois pas très intelligentes ou y a... Puis voilà, oui. On est sur des équipes en sous-effectif, en souffrance. Ça amène aussi des jugements... très rapide aussi, ouais. Enfin, je pense que t'es bien placée pour le savoir puis pour le comprendre, mais c'est vrai que là, c'est tellement difficile en ce moment qu'on peut imaginer qu'il y ait des pensées comme ça, mais faut montrer que voilà, on est tous là pour s'aider, se prendre la main et aller vers le mieux, quoi.
Ça fait un peu monde des bisounours, mais c'est la vérité.
Ah non, mais ouais, clairement.
Moi, je suis sur ça, hein. Moi, j'ai choisi le métier d'infirmière, ma belle-sœur et ma tante sont infirmières et je me suis dit, ouais, je vais prendre soin des gens, je vais avec des gens qui aiment les gens, machin. Puis bon, après, voilà.
la réalité
pas forcément
tout autre.
Partout. Voilà. Mais quand même qu'il y a des gens qui sont sur cette impulsion-là. Et puis de toute façon, j'ai envie de te dire, tout aide à un moment donné. Toute épreuve que tu passes te sert à un moment donné et j'en suis la preuve.
Complètement.
Donc,
Bon, bah très bien. Alors Elsa, j'ai encore quelques petites questions pour toi.
Yes, dis-moi.
Le petit portrait chinois. La première question, que dirais-tu à la Elsa d'il y a 10 ans?
Alors moi, à 10 ans, je voulais être dresseuse de chevaux, tu vois. Donc pas du tout. Pour le cinéma, donc rien à voir.
Ah ouais, c'était très spécifique, ok.
Ouais, mais bon, c'est ma vie de passé. Je lui dirais de s'accrocher et de voir toujours le positif. Parce que, en fait, ben, même dans les pires moments, ben, avec du recul, tu trouveras du positif. Je dirais ça.
Question suivante, plutôt cantine ou lunchbox?
Ah, moi, cantine à fond. Cantine à fond parce que j'adore la cantine, j'adore la bouffe de l'hôpital.
Tu es la première personne à me dire ça.
Je suis pas compliquée, au moins j'aime tout. Et puis je me dis, tu vois, il y a des légumes, il y a des trucs cool, quoi.
C'est vrai.
Je mange équilibré.
C'est complet.
Par contre, j'adore faire à manger, mais pas pour le travail, quoi.
Très bien.
Voilà.
Question suivante, qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études? Beaucoup de choses.
Oh là, ouais, déjà j'ai appris beaucoup de choses. Tu sais ce que j'ai appris, c'est tout ce qui est papier relatif aux infirmiers. Lire une feuille de salaire, les histoires de stagiarisés, etc. Ça, tu vois, dans les IFSI, je trouve que ça manque.
C'est vrai.
Ça bloque. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris aussi à prendre du recul dans le sens qu'on n'est pas dévoué aux patients. C'est-à-dire que... En tant qu'infirmière, on ne sauvera jamais les gens. Enfin, si, tu vas sauver sur un massage, quoi. Mais voilà, il y a chacun son métier. C'est-à-dire que tu ne peux pas tenir et le rôle de la psychologue, et le rôle de la famille, et ton rôle d'infirmière. Non, ce n'est pas possible. Donc voilà, de prendre du recul sur sa profession et vraiment, si c'est possible de le faire, les problèmes de l'hôpital restent à l'hôpital et les problèmes de la famille, c'est plus compliqué de s'en détacher, mais en tout cas, les problèmes de l'hôpital restent à la maison. Restent à l'hôpital, pardon.
Justement, reste à l'hôpital.
Ouais.
Question suivante, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou?
Alors, je suis par période. Donc, tu vois, j'en ai pas une qui me vient, enfin, qui est vraiment... sur tout le temps, quoi. Là, en ce moment, je suis sur une chanson, c'est une chanson de rugby.
Décidément.
Ouais, ouais. De troisième mi-temps, en gros. Sinos organizamos, ça s'appelle.
Très bien.
Voilà. Donc ceux qui jouent au rugby, ils connaîtront.
ça
et
part,
en hein. fait, voilà. Ouais, ouais, ouais. Le matin, quand je la mets dans la voiture, je suis trop contente.
Parfait. <Voilà. rire> Question suivante, la plus belle phrase qu'un patient t'ait dite.
Alors, j'ai une phrase d'un patient, c'était en HAD, et il m'a dit « je vous vois pas souvent ». Enfin, je vous vois une heure, mais vous êtes mon rayon de soleil de la journée.
Oh.
Et j'étais là, je...
ah, ça fait plaisir.
Je vais pleurer. Ah ouais. Et il me dit, ah non, non, faut pas pleurer. Et après, j'en ai une autre qui m'a... Mais ça, c'est d'une étudiante qui m'a encore plus... je crois qu'elle m'a encore plus touchée. Et une étudiante que j'avais vue de temps en temps, tu vois, je l'avais pas vue sur toute la... tout le stage. Et à la fin, je vais la voir, j'ai dit, ça a été ton stage, etc. Elle me dit, oui, très bien. Et elle me dit, tu sais, j'ai quelque chose à te dire. Et là, je me suis dit, oh, pétard, ça a dû lui dire un truc qui allait pas, tu vois, ouais. Et elle me dit, j'aimerais être... Enfin, j'aimerais être comme toi en infirmière.
Ah.
Oh. Là, moi, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, bon, allez, c'est bon. Elle me dit, t'es vraiment l'infirmière que j'aimerais être. J'ai dit, bon, allez, rassemble tes affaires, va.
Allez, file, parce que là, je vais pleurer.
File.
Ah, c'est adorable. Voilà. Ah, je l'ai dit à une infirmière pendant un stage, moi aussi, je lui ai dit, t'es l'infirmière que je rêve de devenir, et vraiment, ce jour, je le pense encore, et pendant toute ma carrière, j'ai pensé à elle, quoi.
Pareil, ouais, pareil. Moi, j'avais eu une infirmière aussi qui m'avait vraiment impressionnée, tu vois, marquée, et en fait, je me suis dit, mais je vais être comme elle, quoi. Et on sait encore par texto, etc. C'est cool.
Ah, trop bien. Question suivante, ton meilleur fou rire au travail.
Oh mon Dieu, je l'ai en tête. Je suis en HAD, tu sais. Et donc moi, je vais, je vais à l'hôpital des fois pour voir les patients. Tu sais, pour faire un premier contact, quoi. Et je vais en médecine gériatrique. Et en fait, je tombe avec une copine que je connais. Et on discute. Et tu sais, c'est horrible. Mais il y avait la morgue qui était venue chercher un patient. Et en fait, ils l'ont mis dans le couloir, si tu veux. Et en fait, ça fait le brancard et ça fait un espèce de truc rond jaune, comme ça. Mais c'est en toile, là, tu vois. Il y a des arcs un peu et c'est en toile. Et moi, je savais pas à quoi ça ressemblait puisque je connaissais pas l'hôpital. Et je connaissais rien. Et en fait, je lui parle dans le couloir et je m'appuie comme ça sur le truc en toile. Et en fait, je m'enfonce. Et je sens que je touche quelqu'un, tu vois. Enfin, que je touche quelque chose, du coup. Et je vois l'infirmière qui se décompose. Ma copine qui est infirmière aussi, qui se décompose. Et en fait, je vois la famille qui sort et qui pleure, quoi. Et moi, je suis appuyée comme ça. Et en fait, là, je comprends que je suis sur quelqu'un qui vient de décéder.
Et tu le savais pas.
Et je le savais pas. Et en fait, de nerfs, je prends un fou rire, mais à pas m'arrêter, quoi. Obligée de sortir du service. Et en fait, ça passe bien parce que la famille a tourné ailleurs. Elle a pas vu. Donc, elle a tourné ailleurs. Et en fait, j'ai que mes deux collègues infirmières qui ont vu. Enfin, bref, ça a été...
le moment gênant.
Je crois que ça a été gênant. Mais ça a été... un moment, j'arrivais pas. Puis je me suis dit, mais c'est pas possible, tu les accumules, quoi. Enfin, tu vois, le truc qu'il faut pas faire, je vais y aller le faire, quoi. Et après, je suis allée revoir l'infirmière. J'ai dit, voilà, je voulais m'excuser pour tout à l'heure et tout. Elle me dit, ah non, mais tu sais, t'es pas la première à qui ça arrive. J'ai dit, en plus, je sais pas, moi, je m'attends. Enfin, nous, en tout cas, chez nous, tu vois, c'est des trucs gris. Enfin, ouais. Tu vois pas ce que c'est. Là, c'était un truc jaune.
Ouais, jaune, ouais.
Tu vois,
ça, j'ai jamais vu.
Comme, tu sais, les tuyaux d'aération,
ah,
un
oui,
peu,
très
là,
bien.
Tu vois, les gros machins. Et en fait, ben moi, je me suis dit, c'est la maintenance, tu vois. Et j'ai... Ouais, ouais.
Ouais, bah oui, puis pas discret comme ça, du coup, t'imagines pas qu'il y a un corps à l'intérieur,
ben,
forcément.
Ben, c'est ça. Puis en fait, c'est quand j'ai vu le gars arriver derrière, que ma copine m'a dit, ouais, en fait, c'est la morgue et tout, que j'ai vu le gars avec son étiquette et tout, j'ai dit, ah, putain, c'était le truc, quoi.
Un souvenir gênant.
Ouais. Gênant, mais j'en ai dédramatisé après. Je me suis dit, bon, la famille a pas vu,
ouais,
donc c'est bon.
Voilà, c'est tout, ouais.
Voilà, il n'y avait personne d'autre à côté, donc je me suis dit, dans ton malheur, entre guillemets, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Ouais.
Et ma dernière question, un titre de film qui résume ta carrière.
Ah ouais, alors là, un titre de film qui résume ma carrière. Bah, je sais pas, toi, t'en aurais. pour moi.
À la recherche du bonheur. Non, c'est quoi? Je cherchais un titre avec le mot recherche. Cette question, elle est plus difficile qu'elle n'y paraît parce que chaque personne me dit, alors là, j'ai bloqué, je n'ai pas trouvé.
Bah, je te dirais un film où, en gros, t'en chies un peu, quoi. Enfin, tu sais, où... parce que, enfin, moi, il faut savoir que même, tu vois, dans ma famille, quand j'ai dit je vais aller en infirmière de recherche, mon père, il m'a regardé, il m'a dit, mais... Tu vas pas faire de la recherche, Elsa, pas toi.
Ah, c'est vrai, vois, alors que lui, avec la carrière qu'il avait, il était... ça l'a déstabilisé, ouais.
Ah ouais. Bah, de fou, parce que, si tu veux, moi, j'ai deux grands frères. J'ai 8 et 6 ans d'écart avec eux. J'en ai un, il est chef de projet, tout tracé dans sa vie, etc. Mon autre frère, il est dans l'agriculture et c'est hyper carré et tout. Puis moi, je suis un peu l'électron libre, quoi. À 17 ans, je suis partie de chez mes parents pour aller faire STAPS. Je suis revenue, je suis repartie en infirmière. Enfin bref, là, tu vois, j'avais fait mon truc en HAD. Et mon père, recherche. Non, mais Elsa, de la recherche. Mais tu sais qu'il faut être hyper sérieux et tout. Alors, il n'avait pas de doute sur le fait que je serais sérieuse dans mon travail. Mais il sait que j'aime rire, que j'aime faire des blagues.
Ah oui, d'accord. Il s'est dit que le voilà. Milieu serait peut-être un peu trop sérieux, ouais. pour ton tempérament.
C'est ça. Et du coup, ouais, ça a été un peu au début, quand je l'ai dit, même autour de moi, on m'a dit, mais Elsa, de la recherche, mais t'es pas assez... Enfin, t'es trop rigolote, entre guillemets, pour aller faire ça, quoi.
Eh ben regarde, la preuve que ça fonctionne.
Ouais, voilà. Puis en ayant touché le fond, tu vois, je me suis dit, putain, peut-être qu'ils ont raison. Et en fait, non, moi, je sais pas, peut-être, tu sais, Top Gun, là. Genre, et on lui dit, il sera jamais enseignant, ah ouais, c'est et ça. Tout, puis à la fin, il finit enseignant. Ben,
et ben voilà.
Ah, je suis un peu pareil, mais on est... Voilà, j'ai pas les avions, j'ai pas tout ça, moi.
Mais c'est un peu pareil au fond.
Ouais, voilà.
Ouais, c'est vrai. Bon, un grand merci, Elsa.
Ben, merci à toi, c'était un super moment, franchement, au top, quoi.
Ouais, c'était passionnant de t'écouter. Et écoute, bah, l'épisode est long, 1h35, je n'ai absolument rien vu passer. Mais.
Ah ouais, mon Dieu.
Mais non, mais c'est très bien. Ah bah non, bah justement, faut pas s'excuser. Non, non, les auditeurs ne le savent pas, mais je ne donne jamais de durée d'épisode au départ. Il y a des gens qui ont des choses à raconter pendant plus d'une heure, des gens pendant moins d'une heure, il n'y a aucun souci. Non, non, si ça doit durer ce temps-là, c'est qu'il y avait plein de choses à raconter.
Bon, ça va.
Donc c'est très bien. Un grand merci Elsa, bonne continuation et bon courage pour ton DU alors.
Ouais, ben merci plutôt aussi, longue vie au podcast parce qu'il est vraiment génial et j'adore ta façon d'être, vraiment de mettre les gens à l'aise et en plus les gens qui viennent sont d'horizons ben vraiment différents et je trouve que c'est incroyable d'entendre tout ça, donc merci à toi de réunir tout ce monde là et par ta personnalité etc, c'est vraiment le top quoi.
Ah t'es chou, merci, non mais j'ai beaucoup de chance, j'ai quand même des invités vraiment exceptionnels, donc non, j'ai beaucoup de chance. À bientôt Elsa.
À bientôt.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode passionnant, si le cœur vous en dit je vous invite à laisser 5 étoiles et pourquoi pas un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'écouter vos retours. À très bientôt pour un prochain épisode.